Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Le but de ce podcast est de vous inspirer en vous montrant des personnes ordinaires qui se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Tous les vendredis, on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti.
C'est parti. On est parti, monsieur Carlos Martins Bilongo, bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va et toi Tanguy ?
Toujours très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que moi je pense que t'es un vrai ambitieux, tu vois, que on t'a vu émerger dans l'espace médiatique en 2022, et à chaque fois que j'entends tes interventions, je sens que t'as un plan pour aller loin. Tu vois, c'est un peu l'impression que j'ai que ta relation avec l'Afrique, ta relation avec la politique, tout ça, j'ai l'impression que tu prépares à quelque chose de grand. C'est l'impression que j'ai quand je t'entends parler. Est-ce que tu peux nous donner un peu, j'imagine que tu vas pas tout nous dévoiler, mais c'est quoi toi ton Kilimandjaro, ce sommet là que tu souhaites atteindre, c'est quoi?
Franchement, déjà merci pour tes mots hein, qui sont très chaleureux.
Je t'en prie.
Je ne sais pas si j'ai un plan spécifique hein, pour m'emmener vers le Kilimandjaro, mais la chose qui est sûre, c'est que je schématise en fait mes interventions aussi qui sont liées aussi à un calendrier, tu vois. Beaucoup de gens m'attendent sur différents sujets de façon impatiente, mais moi je sais que tout est calendaire, tu vois.
D'accord.
Chaque intervention est calendaire. Même moi aussi, je me bonifie avec le temps, tu vois, parce que je travaille aussi mes interventions.
Ouais, sans
ça
en
demande
parler.
Du temps. Et vaut mieux intervenir sur un sujet quand t'es bien entraîné. Moi, j'ai fait de la boxe.
Ouais.
Donc avant de monter sur le ring, entraîne-toi, mon ami. Tu vois, donc quand t'arrives sur des sujets vraiment cruciaux, importants, vaut mieux être bien préparé. Donc c'est pour ça que tu vois que il y a des aspects ou des thématiques que j'aborde à différents moments qui sont liés aussi au calendrier.
D'accord.
International et aussi national.
D'accord.
Mais après, voilà, c'est normal que tu puisses entrevoir quand même. Déjà même, ça me rassure que certains puissent entrevoir qu'il y a un schéma de pensée et un schéma aussi d'arriver à un point X qui est évolutif avec le temps parce que le monde est en mouvement. Tu ne peux pas, je pense, moi, t'accommoder à un seul schéma de parcours. Il faut avoir toutes les voies possibles, au plus large imaginable. Et au travers de ça, j'avance, quoi.
D'accord. Mais on sent, hein. Mais tu vois, tu as dit que tu es un boxeur, que tu as fait du sport et même que tu as fait de la boxe. Le boxeur, quand il se lance en compétition, son but, c'est d'obtenir, je ne sais pas, soit champion de France, champion d'Europe. Toi, c'est quoi ton but à toi?
Non, il n'y a pas. Moi, j'ai fait de la boxe. Ben, tu ne sais pas si c'est peut être champion.
Des fois,
tu sais, quand tu es boxeur, on n'a pas encore les dates de compétition en septembre. Donc,
mais
on
toi,
attend.
Tu as un objectif.
Non, j'attends.
Ouais.
Tu ne sais pas ce qui se passe.
Tu ne veux pas déclarer.
Non, c'est vraiment que quand tu fais de la boxe, tu ne sais pas.
Oui.
Des fois, on t'appelle, on dit qu'il y a un combat là-bas. Tu ne sais pas, en fait.
D'accord.
Et le monde vraiment est en mouvement.
OK.
Et on est sur une séquence 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.
Ouais.
Où le monde est vraiment en mutation.
Ouais, totalement.
Où les enjeux du Sud sont identiques avec les enjeux du Nord. Et où l'Amérique n'a plus d'influence. Où la Russie, malgré la guerre, arrive à avoir l'impact nécessaire pour continuer à fédérer autour des BRICS. Qu'est-ce que tu fais? Et au milieu de tout ça, toi, tu es en France, tu es un élu national, c'est très bien d'être député. Ensuite, qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? Il faut d'abord regarder, tu vois, j'ai même pas encore un an de mandat, tout doucement, tu vois. Okay. T'imagines si un an de mandat, un mec, il dit oui, je vais être ça, non. Moi, je suis fils de personne.
C'est vrai.
Celui qui est fils de quelqu'un peut dire oui, bon, moi, voici mon projet. Et lui, au moins, il dit parce que mon oncle est là-bas, parce que le truc, c'est plausible. Moi, mon ami.
Toi, t'en es pas là.
C'est les électeurs qui me donnent la force.
Okay.
S'il n'y a pas les électeurs, je ne veux pas savoir. Donc
ouais.
Moi, c'est vraiment moi, mon succès ou ma réussite, elle est due aux électeurs qui iront voter, j'espère, à gauche.
Ouais.
Et c'est par rapport à ça qu'il fera que, voilà, demain, si la gauche est écrasée au plus bas, et les gens ne veulent plus voter à gauche, ben, je ne peux pas te dire, ouais, moi, mon ambition est de non.
Oui.
On est dans un monde en constante mutation. En France, on voit qu'il y a trois blocs qui se dessinent, avec un quatrième qui est le bloc de l'abstention, t'as le bloc néolibéral. Le monde de Macron, Édouard Philippe, ce que tu veux. T'as l'extrême droite. T'as ensuite la gauche sociale écologique.
Ah, t'as pas dit l'extrême gauche. T'as pas dit extrême gauche.
Il n'y a pas l'extrême gauche.
Non, je sais pas. Je pose la question.
Mais le troisième bloc, c'est la gauche,
la NUP, tout ça,
sociale, écologique, et moi je rajoute antiraciste. Mmh. Et ensuite, après, troisième bloc, les abstentionnistes. Mmh. Tu vois, qui ont aussi un point politique. Hein. Les abstentionnistes, ils ont une réflexion politique. Ils disent, voilà, je vote pas parce que ça, je vote pas parce que ça, ça, ça et tout. Donc il y a différents points qu'il faut, que, il faut converger. Il faut que les abstentionnistes fassent basculer. Hein. À un moment donné, qui reviennent dans le jeu politique pour renverser le bloc néolibéral et aussi pour montrer que la France n'est pas raciste et pour battre l'extrême droite. Demain, l'extrême droite ne peut pas être constamment au deuxième tour. Demain, l'extrême droite, c'est le deuxième tour contre un élu de gauche, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, en 2027. Il faut que Jean-Luc Mélenchon l'emporte.
Ouais. Et justement, quand tu parles d'abstention, là, on parlait avec Swan, notre stagiaire, là. Il me disait, nous, on ne vote pas par conviction. Quand on vote, c'est juste parce que lui, il a 19 ans, il vient de voter pour la première fois de sa vie. C'est juste parce qu'on nous dit qu'il faut voter. Et souvent, quand on avait cette discussion, je lui disais, mais c'est parce qu'il n'y a pas un projet qui parle vraiment à la jeunesse, un projet qui donne envie de t'impliquer corps et âme. Peut-être que c'est ce qui manque. Est-ce que toi, c'est quoi toi, ta vision et ces valeurs-là qui font que tu pourrais mobiliser les abstentionnistes?
Non, moi, je prétends pas pouvoir mobiliser les abstentionnistes parce qu'ils sont totalement différents.
Ouais, oui,
il y a plusieurs. Il y a celui qui s'abstient, qui habite à Bourg-en-Bresse. Il y a celui qui s'abstient, qui habite au quartier à Sarcelles.
Ouais.
Donc, c'est deux mondes différents.
D'accord.
Et aussi, moi, je pense qu'il faut pas idéaliser, dire, ben, tu votes, ça dure 5 minutes pour voter. On t'a même pas d'ailleurs, c'est pas un mariage quand tu vas te voter. Moi, quand les gens ils parlent du vote, on dirait qu'ils vont se marier. Ouais, mais là, j'irai pas voter parce que lui, il a dit ça un jour. Tu vois, j'ai dit, non. Même sur 10 points, je vais être d'accord sur 9, mais un jour il a dit ça, le 10e point, bah, je suis d'accord avec lui sur 9 points, 10e point, non, bah, du coup je m'abstiens.
Okay.
Bah, attends, ça prend 5 minutes. Tu vois, on n'a pas dit de voter pour la femme présidentielle ou l'homme présidentiel. Après, malheureusement, les gens ont amené le schéma politique comme ça, où le politique c'est l'exemplarité, etc., etc. Donc on veut un élu qui soit parfait, et dès lors où il y a un manquement, on dit bah, je vais pas voter parce que il a pas mis une cravate à mentir. Des trucs comme ça, tu vois, des fois tu vois, des fois c'est des trucs bien réfléchis.
Ouais.
Et des fois c'est des trucs qui sont très ridicules, tu vois.
Okay.
Après ça appartient aux gens de leur sensibilité, c'est normal, tout le monde est différent. Chacun, mais il faut arrêter d'avoir l'image de l'homme ou la femme providentielle, tu vois.
OK.
C'est un élu qui porte vos combats. Si sur 10 cases, il a rempli 9. Allez-y voter, tu vois. Allez-y voter en avance. Après, si vous, jeunesse, vous n'êtes pas satisfait, rentrez dans le jeu politique, améliorez. Et quand tu vas rentrer, tu vas comprendre que, ah, je comprends que ça prend du temps, soyons patients, œuvrons ensemble, et on verra si on peut faire changer les choses. Mais moi, je pense que ça se fait step by step, mais il faut participer au jeu politique.
C'est ton exemple. Et est-ce que toi, tu as toujours voulu aller en politique? Et si tu n'as pas toujours voulu, qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? Et quand tu t'es lancé, est-ce que tu pensais devenir député au départ? Quand tu t'es lancé?
Moi, j'ai toujours été délégué classe.
Ok.
Parce que j'étais un élève un peu turbulent. Et je m'étais dit à chaque fois, au moins, si je suis délégué, je vais pouvoir me défendre. À la base, délégué de classe, personne ne voulait être candidat. On n'a pas élevé tout le monde, personne ne voulait. Qui va être délégué? Moi, je dis, bon, je réfléchis, bon, je dis, oh, comme un peu, je fous la merde en cours et tout. Si je suis au conseil de classe, c'est pas mal pour me défendre.
D'accord.
Donc, au début, je gagnais parce qu'il y avait moi qui était candidat. Après, à la fin, il a fallu faire des candidatures, se défendre avec différents camarades de classe parce que mes camarades de classe avaient compris au fil des années parce qu'on avait les mêmes classes que quand il était délégué, Caro, toujours, il se sauvait. Donc, les autres voulaient devenir délégué. Donc, après, il a fallu se défendre, faire des campagnes pour devenir délégué de classe, délégué du lycée, ensuite président du bureau des étudiants aussi quand j'étais en école de commerce. Et j'ai toujours réussi à fédérer, parler, défendre.
Ok, d'accord.
Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est pas mal. Et en fait, quand tu es dans ces organismes-là, tu te rends compte que les profils sont manquants, me ressemblant. Donc, je me suis dit, en fait, s'il n'y a pas mon profil en politique, ben, je pense que c'est le moment d'y aller. Et aussi, moi, je suis issu du monde associatif. Donc, parfois, tu avais les demandes de salles, les demandes de subventions. Donc souvent, tu es à la table des acteurs politiques où ils te disent non, il n'y a pas de budget, non, ce n'est pas pour cette année, ce n'est pas dans la vision. Et moi, je faisais beaucoup de collectes alimentaires.
D'accord.
Et je me disais, bon, moi, il y a une réalité du terrain qui dit que c'est maintenant qu'on a besoin. Mais l'élu me dit non, c'est dans 5 ans, prochain mandat. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai compris, il faut que je sois à la table des décisions pour qu'ils m'entendent. Tu vois. sur différents sujets. J'interpellais les institutions, j'envoyais des courriers au préfet, parfois des bailleurs et tout, j'avais pas de réponse. Mmh. Et aujourd'hui, je suis content parce que depuis que je suis élu, quand j'interpelle une institution, soit le préfet, etc., pour une demande de régularisation de quelqu'un ou un titre de séjour, tout ce que tu veux, un visa, parfois un passeport, quand j'ai un lien avec une ambassade, ben, on me répond parce que je suis élu.
Mais est-ce que tu fais bouger les choses? Est-ce que tu as vraiment l'impression de faire bouger les choses? Et si oui, est-ce que tu as des exemples concrets de choses sur lesquelles tu as pu peser pour avoir un impact véritable?
Bien sûr. Mais après, si je le dis devant tes auditeurs, tout le monde va me solliciter. C'est ça le problème. Non, mais on arrive.
J'irai pas sur des sujets gens, comme les passeports ou autres.
Les gens peuvent témoigner. Ben, pas passeport. Je dirais directement carte de séjour, tu vois.
Ouais.
Il y a des vrais sujets, moi, les gens qui étaient. Parce qu'aujourd'hui, les guichets sont fermés en préfecture. À des gens qui doivent qui sont employés, tu vois, mais aujourd'hui ils sont en arrêt parce qu'ils n'ont pas reçu un renouvellement. Donc moi j'ai aujourd'hui l'opportunité de pouvoir solliciter le préfet de mon département. Je lui fais un courrier où j'appelle le sous-préfet quand c'est pas le préfet, quand c'est lié directement à Sarcelles, la sous-préfète de Sarcelles, qui d'accord. reprend de Soisy-Montmorency jusqu'à Villiers-le-Bel, etc., Garges. À ce moment-là, j'interpelle le sous-préfet. Et ensuite, en général, ça se passe bien.
D'accord.
Et moi, je suis très heureux quand je vois des personnes qui sont en France depuis 10 ans ou 15 ans,
ouais,
des enfants.
Toutes les conditions pour
normalement
être...
Ouais, mais qui ont des enfants qui ont tout fait ici.
Ouais.
Et depuis 2-3 ans, ils n'ont pas de renouvellement. Tu vois, c'est cruel, tu vois. C'est des vrais cas de figure où tu vois que les gens ne travaillent pas. Après, ils sont bloqués, ils restent là, et ils te regardent et ils attendent quelque chose. Et je te dis, quand cette personne obtient ses papiers ou un récépissé, bah, tu te dis en fait
mon action a servi à quelque
chose. Mon action a servi à quelque chose. Tu vois, ça peut être ça, ça peut être aussi des fois les manques de profs dans les classes. Moi j'aime bien des fois dès qu'il y a un truc comme ça, je fais une manifestation, je dis aux parents organisez-vous, faites une manif, moi je vais avec mon écharpe. Donc dès que je débarque il y aura les médias. Il y a les médias, l'académie ensuite est avertie, l'académie envoie un professeur le lendemain ou deux jours après. Ou sinon on va faire un circuit pour faire un rattrapage des heures manquantes. Qui servait à quelque chose.
D'accord. Ça, c'est un impact réel sur la vie de tout le monde.
C'est réel. Moi, une fois, j'étais dans un magasin, je faisais mes courses. La caisse dame m'a dit merci. Je dis pourquoi ? Elle me dit oui, monsieur le député, mon fils est en CE1. Et grâce à vous et tout, à un moment donné, pendant longtemps, on n'a pas eu de professeur. Et on est au courant que vous avez agi. On s'était croisés devant l'école pendant la manifestation. Et depuis, maintenant, il y a un prof qui est arrivé, etc.
Ok. Non, tu vois, c'est important de vous dire ça, parce que je te cache pas que moi, quand je parle avec les gens autour de moi, il y en a beaucoup qui croient plus en la politique, tu vois. Et ce problème des classes.
Mais parce que ces gens-là n'ont plus besoin. C'est un peu égoïste, hein, parce que ça, c'est des gens quand ils n'ont plus besoin, ils disent ah bah moi j'ai pas besoin parce que ça sert à rien. Parce que ça te sert à rien.
Ouais.
Mais quand tu as besoin, là tu vas dire ça sert. Il y a beaucoup de gens, même dans vos familles, vous savez pas. Ils sont en difficulté, mais ils ne vous le disent pas. Ils font des grands sourires et tout. Et parfois, c'est l'aspect politique qui peut gérer des situations. Tu vois, discutons avec les gens, avec vos voisins, vous allez voir. Pas dire, oui, moi, ça ne me sert à rien parce que moi, je suis tranquille. Tu vois, non, discutons avec les autres. C'est important. Ensemble, on est plus fort.
Et pour toi, l'action politique, c'est uniquement... politique au sens de la politique politicienne, où il y a plein d'autres actions qui sont associatives qui peuvent être politiques aussi.
Bah, bien sûr.
Oui, d'accord.
Le monde associatif est très largement politique sur différents aspects.
Ouais. D'accord. En tout cas, c'est intéressant. Je pensais pas qu'on allait parler aussi longtemps de tout ça. Mais là, je t'ai contacté par rapport à ton livre Noir français. Qui vient de sortir là tout récemment, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger. Donc le livre était un des prétextes, et aussi le fait que je t'ai vu apparaître dans les médias récemment comme étant bien attaqué sur des sujets de abus de biens sociaux, fraude fiscale. J'ai dit mais non Carlos, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent ta peau, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu expliques cette...
C'est la vie politique.
Ouais.
Au même moment il y avait aussi l'affaire des fonds libyens sur la campagne de présidentielle de Sarkozy en 2007. Donc je pense que pour les gens de droite et pour les médias, c'était un contre-feu.
Ok.
D'avoir un noir de la gauche, proche de Jean-Luc Mélenchon aussi, inculpé ou soupçonné de quelque chose. Donc, t'avais Sarkozy qui sortait du tribunal, tu vois, vraiment condamné.
Ouais.
T'avais juste une ouverture d'une enquête préliminaire. Mmh. Et bizarrement, l'ouverture d'une enquête préliminaire faisait état plus largement sur le tapis médiatique que Sarkozy. Même en année, je me dis, waouh, on dirait que je suis un ancien président, moi. Je passais avant Sarkozy, en plus gros et tout, Cribilongo et tout, Sarkozy en tout petit. Mmh. J'ai même un ami qui a fait un exemple du Figaro où tu vois que mon nom est en gras, en gros. Mmh. Et ensuite, Sarkozy un peu petit, juste en bas. Je me dis, waouh. Et pourtant, lui, c'est condamné, hein, tu vois. C'est condamné à du ferme, un ancien président, fondit bien. Kadhafi est mort aujourd'hui et tout, donc on peut imaginer plein de choses. Moi, on reste sur des soupçons et une ouverture d'une enquête préliminaire. Ouais. Voilà. Mmh. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Je suis très patient et je suis confiant. Et on verra après bientôt. On verra bientôt plutôt.
Ouais.
On verra bientôt. Moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faussement erronées, tu vois. Mais avec vraiment une volonté vraiment de nuire, tu vois. Quand on parle de comptes en Europe de l'Est et tout, non déclaré, c'est un compte Revolut. Avec 106 euros à l'intérieur.
D'accord.
Et Revolut, à la base, c'était en Angleterre. C'est l'application, c'est comme PayPal.
Ouais, on connaît Revolut.
Tu vois, là, ça a été déplacé récemment en Lituanie. Beaucoup de gens ont reçu un mail là, depuis début mai pour informer de déclarer dans un feuille d'impôt quand vous avez un compte à l'étranger, quand vous avez un compte Revolut.
Ouais.
Mais à aucun moment, j'ai dissimulé. En plus, j'avais déclaré à l'Assemblée nationale parce qu'on a, nous, l'HATVP.
Ouais.
La haute autorité où j'avais déclaré depuis septembre, j'ai un compte Revolut, il y a 106 euros, etc. Mais dans les médias, ils ont dit dissimulation d'à peu près 200 000 euros.
Ouais.
D'autres médias faisaient céder 100 000 euros et ils disaient, il y a un compte à l'étranger. Comme si, genre, dans le compte à l'étranger. En fait, dans l'imaginaire, ça faisait.
Les 200 000 sont à l'étranger.
Voilà, c'est à l'étranger.
Je me suis dit, mais Carlos, il est plein.
Mais à un moment donné, je cogitais, je me suis dit, oh, je suis plein ou quoi? J'ai en galère. Je me suis dit, les gens sont malades. Et malheureusement, après, le lendemain, j'étais en circonscription, j'étais à la brocante. Les gens me regardent en bizarre. Ils me disent, vous pouvez pas acheter, monsieur? Non, j'ai pas. Ah, vous avez 200 000 euros, tout le monde fait des blagues. Tu vois, là, les médias,
ils ont un pouvoir.
Ils ont un pouvoir dangereux. C'est un pouvoir dangereux. Moi, j'ai fait. On a comptabilisé avec mon équipe. Quand BFM sort ça, je fais 25 médias au bout de 10 minutes.
Okay.
25 une comme ça. Moi, mon téléphone, il surchauffe. Tout le monde m'appelle, tout. Tu vois.
Fait un impact.
Après, les gens, ils oublient aussi les définitions des mots. Tu vois, fraude fiscale, ça veut dire quoi. Après, abus de biens sociaux, ça veut dire quoi. Tu vois, abus de biens sociaux, ça veut dire t'es une entreprise. Et en fait, tu l'utilises à des fins personnelles, tu vois.
Ouais.
Je sais pas.
Alors que toi, ce qui te reproche, c'est de vivre dans un logement social.
C'est encore autre chose. Ça, c'est encore un deuxième point qui m'ont mis sur le dos. Mais sur le premier point, tu vois, quand tu parles des entreprises, tu regardes, tu vois, ils disent sur 4 ans, après ils disent oui, parce que Tracfin a dit c'est bizarre qu'en 4 ans, vous avez mis de l'espèce dans votre compte. Tu vois, ils parlent de 33 000 euros en 4 ans, tu vois. Donc tu ramènes sur un an, ça fait 8 500 par an. Ça fait 600-700 euros par mois. Et moi, on est 6 frères et sœurs. Tu vois, j'ai perdu mes parents en 2012 et en 2016.
Ouais.
Donc, avec mes frères et sœurs, souvent, on se donne l'argent, on s'aide et tout pour les charges, parce que moi, je suis le plus petit. Et parfois, je mettais 600-700 euros dans mon compte, tu vois, chaque mois, en fonction aussi en tantine, tu vois.
Ouais.
Donc, ou parfois, des fois, c'est moi qui prête à mon frère, je prête à ma sœur, etc. Et eux, en fait, ils ont profité de tout ça. Pour dire, ah, il y a un soupçon d'eux, on ne comprend pas pourquoi en 4 ans. Et en fait, ils ont fait un cumul sur 4 ans pour faire une somme et dire, ah oui. Et ensuite, sur une ancienne boîte, la TVA, on était exonéré de TVA.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de double TVA avec une entreprise. Le franchiseur est payé la TVA directement en Angleterre.
Okay.
Donc, ils ont dit, oui, 120, plus ça, ça fait plus les 33 000 euros qu'on ne sait pas, plus ça fait 170. Un peu moins, et en plus, même moi, j'ai jamais été contacté, j'ai pas eu de contrôle fiscal. Demain, vous êtes quelqu'un de frauduleux, vous avez un contrôle fiscal avec la société directement.
D'accord.
Ça va pas attendre 4 ans pour avoir un contrôle fiscal ou 5 ans. J'ai jamais été contrôlé personnellement, ni professionnellement. Ils attendent que je suis élu, que je sorte mon bouquin le jour même, pour sortir ça.
Mais c'est une bonne
idée. Les plus intelligents comprendront.
Ouais.
Ensuite, les esprits faibles se feront téléguider. Malheureusement, ça fonctionne, tu vois, parfois.
D'accord.
Tout. Et après, ensuite, sur le logement, tu vois, moi, encore une fois, ma mère décède en 2012. J'ai 21 ans. Je prends un appartement en 2013, parce qu'il était très grand, l'appartement où on était six frères et sœurs.
Ouais.
Ensuite, je perds mon père aussi en 2016. Mmh. Et là, ma sœur vient habiter chez moi. Mmh. Donc, j'habite avec ma sœur et tout. Et pour moi, c'est le... et même dès 2013, mes sœurs viennent souvent chez moi. Moi, je suis le dernier, encore une fois. Mmh. Les gens viennent souvent. Vous savez comment on vit à l'africaine.
Bien sûr.
Et j'avais un petit appartement F2. Et ma sœur vient à partir de 2017, elle fait des allers-retours. 2018, elle vient tout le temps et avec moi, etc. Et en même temps, moi, je sécurise, tu vois. J'ai un CDI, je me dis, bon, je vais acheter un appartement. Mm-hmm. Parce que j'ai pas d'héritage, tu vois. Je me dis, mm-hmm. là, mes parents, ils sont partis. Ils m'ont rien légué, tu vois. Mm-hmm. Le daron, il avait un petit truc au bled, tu vois. Mm-hmm. Et c'était pas grand-chose. Et je me suis dit, moi, putain, tu vois, le daron n'a rien laissé. Quand je regarde des fois mes camarades de classe, ils ont eu ça mm-hmm. et tout. Au moins, demain, si je fais des enfants, ouais, moi, j'étais quelque chose et je sécurise, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est un petit truc. Un petit F3 dans ma ville et tout. Mmh. Et je mets en location.
Mon locatif, quoi.
Mon locatif et tout. Mmh. Je reste avec ma soeur dans l'appartement, tu vois. Mmh. Tranquille. Après, je fais un deuxième investissement. Je me dis, bon, là, ça va être ma résidence principale.
Ok.
Et pareil, là, je pars en travaux pendant un an et demi. Tu vois. Mmh. Donc, j'achète fin 2018. Et jusqu'en fin 2020, début 2021, là où je termine tous les travaux, je pars dans mon appartement. Et pendant cette transition-là, j'habitais encore avec ma soeur. Et je dis au bailleur, moi et tout, le prélèvement est sur mon compte et tout. Parce que même moi, au début, quand tu habites avec ta soeur, tu sais même plus que le bail est annoncé. Tu vois, ma soeur était occupante sur le bail. Mais c'était le logement de la famille, quoi. Mmh. Et à un moment donné, je dis, bon, au bailleur, moi, je vais quitter et tout. On peut transférer, etc. Mmh. Parce que le bailleur, à un moment donné, il me dit, oui, sur le cadastre, on voit que vous avez des propriétaires de deux appartements et tout, on comprend pas. Je dis, non, mais j'habite toujours ici, mais en fait, c'est un investissement locatif et l'autre, il est en travaux, donc, tu vois, super intéressant parce que c'est par mail et même par courrier d'huissier. Mmh. J'avais justifié que j'étais toujours là. Et,
donc, t'as toutes les preuves, c'est ça que tu veux
dire? Toutes les preuves, ouais. Mmh. Et après, on m'a dit, oui, mais, à un moment donné, le juriste du bailleur, il me dit, oui, mais on a pas le droit d'être propriétaire.
Et locataire. En logement social.
Je dis, non, mais moi, je lui ai écrit en plus. Donnez-moi un texte de loi, c'est écrit noir sur blanc. Donnez-moi un texte de loi qui m'interdit en fait d'acheter un bien dès lors où je suis locataire d'un appartement. Mm-hmm. Parce que demain, vous êtes, j'ai dit à un moment donné, si quelqu'un fait un investissement locatif, parfois il y a un investissement locatif en province. Mm. J'habite dans un HLM en banlieue, j'achète un studio à Bourg-en-Brest ou à Brest. Qu'est-ce qui va obliger à dire que ben, vous avez acheté un appartement dans le sud? Ben, vous êtes obligé de déménager parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige. Après, il faut prendre le contexte. Et moi, les médias, ils ont amené comment en disant oui, il est multipropriétaire et tout. Tu vois, comme si, tu vois, un appartement de 140 000, j'ai fait un crédit, tu vois. En plus, ils disent même pas, il a fait un crédit. Ils disent, il a acheté, comme si j'avais acheté cash, tu vois.
Il est plein, c'est ça.
Et en même temps, il était dans la HLM et tout.
Ouais.
Et après, moi, tu vois, avec le bailleur, j'étais très transparent. J'aurais dit, voilà. Parce que le bailleur, on est souvent en relation parce que moi, j'étais président d'Amicale des locataires.
Ok.
J'ai beaucoup de projets avec le bailleur et tout, sur différents sujets. Et j'ai dit au bailleur, voilà, ma sœur est là, comment on fait et tout. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible, c'est qu'avec les ascendants. Mmh. Et même moi, dans ma circonscription, j'ai beaucoup de sujets comme ça où des gens perdent leurs parents, maintenant ils vivent avec leurs frères et sœurs dans le logement.
C'est une affaire qu'on a souvent. Ouais.
Les gens qui connaissent le savent, on est dans les cités, on vit souvent avec nos frères et sœurs. Mmh. Et tu vois, mon appartement, c'était un F2, tu vois. Mais à un moment donné, il y avait ma sœur, son mari et moi dans le F2. Mmh. Tu vois, F2, ça veut dire une chambre. Mmh. Tu vois, les gens qui, tu vois, mais tu vois, dans l'imaginaire, ils sont même pas, ils savaient très bien, tu vois, les médias. Ils vont dire, on va pas dire que c'est un F2, on va juste dire appartement, comme ça fait genre, en fait, c'est un grand truc.
Ouais.
Il est ça à sa sœur, tu vois, c'est un début, il est élu, il est ça à sa sœur, il sous-loue carrément, tu vois. Mmh. En mode, il se fait de la rente sur sa sœur, en mode, tu vois. Tu vois. Okay. Alors que nous, tu vois, nous, dans nos communautés, on vit entre frères et sœurs, on va jamais sous-louer à sa sœur. Mmh. C'est en vie avec sa sœur, tu vois.
Ouais, totalement.
C'est pas... Et même demain, quand on reçoit des versements en espèces de 100 ou 150 euros, de 2018 à 2022, je suis pas député, je suis le petit frère de la maison. Mmh. Mes frères et sœurs, ils m'aident sur mes charges, tu vois.
Parce que
je suis le seul habitant encore dans la ville et tout. Et des fois, voilà, on fait plein de trucs. Mmh. C'est malheureux, tu vois. Aujourd'hui, j'ai dû même évoquer plein de sujets. Je me dis, demain, quand je vais faire un BFM 20h, je vais les remettre devant le fait accompli en disant, vous avez déballé la vie d'un député comme ça, normal.
T'es devenu un député, t'appartiens à la nation.
J'ai jamais vu de ma vie, je cogitais là-dessus hier, où tu vas déballer la vie d'un député comme ça. Oui, ses parents sont morts en quelle année? Ok, ça. Tu vois, en fait, limite, ouais, le petit Renaud qui est en place là maintenant, comment il est rentré là? Faut faire ça, faut. Ouais, mais. Il y a même des mecs d'extrême droite. De Valeurs Actuelles qui, à un moment donné, sur BFM, il dit, oui, monsieur Bilongo, depuis qu'il est sorti de l'école, nous, on enquête sur lui pour savoir depuis 2012 qu'est-ce qu'il a fait, il a travaillé où. C'est obsessionnel. Tu vois, les mecs qui sont dans l'obsession, je vais vous montrer une vidéo où le mec de Valeur Actuelle, il te dit, lui, depuis 2012, il travaille dans une boîte, on sait pas qu'est-ce qu'il a fait après les études, après son, sa licence en marketing, on veut savoir tout sur lui, on enquête.
Ouais. Moi, tu te demandes pourquoi tant d'obsession sur toi, c'est ça. Non, bah, on s'est compris.
C'est pour ça, noir français.
Ouais. Bah, du coup, on y vient, noir français.
Elle est bonne la transition, non ?
Ouais, elle est pas mal, effectivement.
Merci.
C'est quoi le message que tu veux faire passer avec ce livre, du coup ? Et après, je te poserai la question de comment tu as fait pour écrire en si peu de temps. Mais déjà, quel message que tu veux faire passer avec ce livre ?
Mais tu l'as pas lu, c'est pour toi que tu sais pas pourquoi.
Ben, voilà. C'est normal, tu viens de le sortir. Moi, je te jure, je croyais que tu l'avais sorti hier. Du coup, je me suis dit, bon, on va acheter après, tu vois. Tranquille.
Noir français. Il y a différents messages, tu vois. C'est avec la polémique qu'il y a eu au mois de novembre. J'ai pas eu le temps, moi, de bien répondre sur différents sujets, tu vois.
Okay.
Faut prendre du temps de répondre, tu vois. Les gens, ils pensent que c'est à la haute volée. Les gens, ils prennent des 20 secondes. Ah, bah, il a dit ça. Bah, ils sont contents. Ils me font des vues, tout sur les réseaux. Moi, je suis pas un mec des réseaux.
Ouais.
J'ai un peu de gens sur les réseaux, mais je suis pas un mec des réseaux.
D'accord.
Tu vois, je suis tranquille et tout. J'aime bien le temps long. Parce qu'en fait, la vie, c'est qu'un temps. Les gens, ils s'affichent sur les réseaux. Demain, ils en paieront des prix dans 10 ans, tu vois.
Totalement.
Il y a des séquences, il y a la séquence Facebook, il y a la séquence Instagram, il y a la séquence TikTok, après un nouveau réseau social qui va arriver, il y aura un autre qui va le déloger, il y aura toujours un truc qui va arriver, tu vois. Moi, je m'en fous, tu vois, tout ça. Des fois, je fais le strict minimum pour communiquer un peu, mais je rentre pas dans le jeu des,
tu vois, des
réseaux sociaux, etc., d'alimenter, de chercher. Dès qu'il y a un truc, tu fais un débriefing, tu vois. Moi, dès qu'il y a un truc sur moi, les gens font des débriefings directs sur Twitter, sur TikTok, tu vois. Waouh. Tu vois, mais quand il y a des vrais enjeux politiques, il n'y a aucun débriefing, tu vois. Quand on parle de vrais trucs et tout, un projet de loi, il n'y a pas de débrief et tout. Les gens, ils sont là que pour les tweets et les vues. Après, je leur en veux pas, tu vois.
Ouais, mais c'est leur activité. Mais alors, t'es pas un mec des réseaux, mais je te trouve quand même hyper communicant, tu vois. Dans le sens où, moi, si quand je te suis sur LinkedIn, à chaque fois, je dis, ah tiens, Carlos y était là. Donc, on voit quand même que t'as réussi à faire ce travail-là.
Je mets les trucs en décalé. Après, tu m'as interpellé, tu m'as dit, ah, tu fais plus rien.
Ouais,
c'est ça. Ah non, j'ai rien posté. Et d'un coup, j'ai mis mes 6 trucs sur LinkedIn.
Oui. Donc,
franchement.
Mais tu.
Ça me fait chier.
Mais j'imagine quand même que t'as une équipe qui te filme, qui te prend en photo, parce que on a des images de toi partout, en réalité, quand même, tu vois. Donc, t'es pas un mec des réseaux, mais t'as compris quand même que ton image, et que de communiquer sur tes activités, c'est important.
Ça, j'ai toujours été depuis.
Ok.
J'ai toujours fait depuis, même depuis que j'étais coach sportif et tout, j'ai toujours communiqué de cette façon-là.
Ok.
En fait, je suis dans la même lignée et tout. Même des fois, les gens me disent, même mon équipe me dit, oui, on communique trop et tout.
Ouais.
J'ai dit, écoute, même mes trucs comme ça, j'ai fait, dans la journée, si je fais 10 trucs.
Ouais.
Je vais mettre les 10 trucs.
C'est ça.
Non, c'est trop parce que après, l'info, elle est partie, c'est pas grave. J'ai fait les 10 trucs. Et moi, comme je suis un hyperactif, demain, je vais faire encore 10 trucs. Ou demain, politiquement, il va y avoir un problème. Je ne pourrais pas poster ce que j'ai fait hier dans 2 jours. Regarde, mon livre est sorti le 11. J'ai eu la polémique autour du début de l'enquête, les soupçons, etc. Ben, toute ma communication. Demain, si j'avais dit, ah, ben, le 12, je poste ça, le 13, je poste ça, c'est biaisé, tu vois. Ça, moi, je dis à mes équipes, il y a un truc qui fait, on poste tout de suite. Tout de suite, comme ça, c'est réglé.
D'accord. Enfin,
si j'ai fait 10 trucs la veille, on poste les 10.
Mais du coup, on sent que tu as cette volonté que le public, je sais même pas, enfin, tout ton public, sache que tu es un homme d'action.
Non, parce que les gens ne savent pas des fois ce que c'est la politique. Tu vois.
Ouais.
Les gens n'ont jamais eu un ami, un mec dans leur réseau, sur Twitter ou sur Insta. C'est le député.
D'accord.
C'est tout nouveau pour les gens.
Ouais.
Même pour moi, c'est nouveau.
Totalement.
Et en fait, j'essaye moi d'avoir cette approche-là, cette proximité, tu vois. Pour dire que l'élu, il est là avec vous, tu vois. Moi, demain, les gens, ils me sollicitent des fois en DM. Je dis, ouais, merci et tout, une invitation là-bas. Je dis, ouais, voici mon mail. Et si je peux passer, je passe, tu vois. Et les gens sont super contents. Ils disent, ah, jamais, notre élu n'est jamais venu, etc. Patati, patata. Tout ça, on veut venir à l'Assemblée nationale pour des questions. Je dis, vas-y, venez et tout, tu vois.
Donc, tu communiques pour montrer que tu es disponible, c'est ça?
Je suis quelqu'un disponible.
Ouais, non, moi je le sais. Mais est-ce que les gens. Mais en fait, j'essaie de comprendre quelle est la stratégie. En fait, moi, mon but avec ce podcast.
La stratégie, c'est que tu en parles aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Donc, on est d'accord.
C'est ça la stratégie.
Tu veux que les gens sachent que tu es quelqu'un disponible, tu es quelqu'un d'actif.
Non, je fais juste. Je communique sur mes actions.
Oui, mais dans quel but ?
C'est pas pour dire que. Mais c'est pour que les gens voient mes actions.
Ok.
Et mes actions, elles sont politiques.
Oui, ça, on est d'accord.
Ça donne aussi les gens aussi, des fois, au travers de mes actions, ça porte à la réflexion. Ils disent, ah oui, il a raison, il faut faire ça et tout. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, après avoir fait ton action, je veux l'amener dans ma circonscription, je veux contacter mon élu, etc. C'est ça le truc.
D'accord. Et donc.
Les gens me disent des fois des conseils, ah, t'as fait ça, tu sais, chez moi, il y a ça, on peut améliorer, tu peux faire ça aussi, tu vois. Les réseaux, c'est important aussi.
C'est donc pour créer de l'interaction avec ta communauté, une communauté au sens large, quoi.
Bien sûr, et en plus, moi, en train de grandir, tu vois, je suis pas. Les gens qui me connaissaient pas et tout, donc j'ai appris à me connaître, tu vois, petit à petit.
D'accord.
Et après, il faut savoir que député, c'est national, tu vois. C'est national, ça veut dire aussi les Outre-mer.
Ouais.
Donc, il faut être sur tous les plans, il faut communiquer à pas d'heure. Des fois, tu vois, moi, mon équipe a dit oui, il est minuit, il poste pas. Mais en France, il n'est pas minuit au même endroit, partout.
Ah, c'est vrai.
En Guyane, il n'est pas minuit. En Guadeloupe, il n'est pas minuit.
En plus, j'ai vu ça l'autre jour sur LinkedIn, t'as posté à minuit. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Mais c'est vrai que toi, t'as une réflexion qui est internationale.
Je suis suivi partout. Dans les différents hémisphères.
C'est vrai, c'est vrai. Non, ça a du sens, je comprends.
Faut plus être nombriliste, tu vois.
Non, c'est vrai. En plus, toi, t'es responsable des relations avec le Congo à la commission des affaires étrangères, c'est ça?
Je suis président du groupe d'amitié
c'est ça.
France-RDC.
Donc, t'as tout de suite voulu avoir cette dimension internationale aussi dans ton mandat?
Non, c'est pas une question de ça. C'est juste que je suis d'originaire du Congo. Mais pour m'exprimer en toute légitimité, j'ai voulu être président du groupe d'amitié, tu vois.
D'accord.
Au moins, demain, en fait, parce que tes opposants politiques, ils vont dire quoi? Ah, il prend un avis sur le Congo. Ah, bah, c'est parce qu'il est d'origine du Congo, tu vois, de gamin comme ça.
D'accord.
Et même en hémicycle, on va dire ça. Il dit ça parce qu'il est congolais, tu vois, les trucs ils vont jamais dire ça pour un Israélien, mais, tu vois, pour un Italien d'origine, tu vois. Mais pour un Africain, ils vont dire, ah, c'est parce qu'il est truc, tu vois. Donc, j'ai dit non, tranquille. Président du groupe d'amitié.
Ok.
Comme ça, des fois, je fais des communiqués, j'écris bien. Président du groupe d'amitié.
Totalement. Et tu vas au Congo? Tu étais au Congo récemment?
En tant que président du groupe d'amitié.
Exactement.
Ça ne va pas dire il va au Congo parce que, tu vois.
Il va voir sa tantine.
Voilà.
Non, je viens pour créer. Mais est-ce que, parce que j'avais assisté à la conférence que tu avais organisée.
Sur Congo-Brazzaville.
Congo-Brazzaville cette fois-ci. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, non, Carlos, il réfléchit loin. Parce que j'avais l'impression que tu prenais une nouvelle relation entre l'Afrique et la France. Et que finalement, ta connexion avec le Congo, tu t'en sers aussi pour ça, pour montrer que on peut vivre différemment la relation Afrique-France. Aujourd'hui, jusqu'ici, il y a un problème, il y avait des problèmes, et la France a été, je sais pas si t'as employé le mot de la colonisation, mais on sentait l'arrière, en arrière-plan, cette réflexion-là. Mais tu disais, tu semblais dire que, non, avec, je vais pas faire du prosélytisme en disant ça, mais avec ton approche et avec l'approche de la LFI, eh bien, on veut transformer les relations Afrique-France. C'est ça?
C'est ça.
Mais comment? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire, transformer ces relations? C'est de par aujourd'hui une diaspora qui a fait des enfants, qui est totalement sur le territoire français. C'est comment on peut avoir l'impact nécessaire pour changer les choses. Plein de gens se plaignent. Moi, j'étais petit, je voyais mon père est parti en manif. Ouais, il y a ça qui va pas entre la France et l'Afrique sur différents sujets, l'ingérence française. Ok. Maintenant, on fait quoi, nous? On est là, on fait quoi?
Totalement.
On commente, on dit juste, ah, nous, on rentre, on s'en fout. Non. Il y en a qui peuvent rester, faire le job pour améliorer les choses. Il y en a qui peuvent partir, rentrer au bled s'ils veulent faire des trucs. Mais il y en a qui peuvent rester, faire les choses bien. Et si demain le pouvoir passe à gauche, de changer le type de relation, tu vois. Parce que c'est une nouvelle gauche.
Ouais.
La gauche radicale a pris le flanc sur la social-démocratie. Et demain, si nous, au sein de la gauche radicale, on met tout en place pour que la relation soit différente avec les partenaires africains, c'est magnifique. Mais préparer les fondations pour prendre le pouvoir.
Mais si
demain tu laisses la social-démocratie en place avec les mêmes relations qu'il y avait avec l'Afrique, parce que tu dis, nous, on ne fait pas, on ne participe pas, etc. Bah, après, tant pis, tu vois. Le jour où il y a du pouvoir, bah, ça va être pareil qu'il y a 15 ans, pareil qu'il y a 20 ans. On ne va pas se plaindre.
Ouais. Mais sur quel sujet, par exemple?
Il y a plein de sujets, tu vois.
Que là, j'ai vu que tu as pris
sujet économique, il y a plein de sujets.
Je t'entends tout à l'heure, on parlait d'écologie. Tu t'expliquais les conséquences
du dérèglement climatique.
Du dérèglement climatique, on en a parlé juste avant, et tu parlais du Congo notamment.
Du Sud Kivu, il y a 400 morts.
Voilà.
400 morts au Sud Kivu après les inondations.
Lié à un dérèglement climatique.
C'est lié au dérèglement climatique.
Mais qu'est-ce que, si demain, toi, t'es, si on se met en mode François Hollande, moi président, tu vois, qu'est-ce que toi, tu ferais pour changer? Ou quel axe? Parce que j'imagine que c'est un peu démago de dire je vais faire ça, mais quelle volonté, ouais, de ta volonté, qu'est-ce que tu mettrais en place pour faire évoluer les choses?
Il y a un principe simple. Toi, moi, je suis co-rapporteur de la COP 27, COP 28.
Ok.
C'est le rendez-vous climatique international. Mm-hmm. Mais il y a les principes déjà à mettre en place, c'est pollueur-payeur.
Ok.
Ça, c'est le numéro un, tu vois, pollueur-payeur. Mmh. Et il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Ok.
C'est ce qui est lié au dérèglement climatique.
Que de manière plus concrète.
Les centrales à charbon en Europe, centrales nucléaires, tout ça. Nous, on est contents. Ici, quand tu allumes ta télé, tu es content, ça fonctionne. Tu allumes, tu branches ton truc, tout fonctionne. Mmh. Mais il faut savoir que les centrales nucléaires, après, ça fait des 400 morts. 400 morts. On a une séquence de pluie au sud de Kivu. Mmh. Demain, si ces séquences de pluie sont sur 7 jours ou 10 jours, tu fais 400 fois 10. Mmh. Ça fait un chiffre énorme, tu vois. Mmh. Tu décimes des familles et des villages. Mmh. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'était pareil au Pakistan. Mmh. 3,5 millions de déplacés après les inondations qu'il y a eu au mois d'août 2022.
Okay.
On fait quoi? J'ai fait une conférence juste après l'Assemblée nationale par rapport au Pakistan. Parce que moi, les enjeux climatiques, ça me parle et je sais l'impact qui résonne ici en France, parce que les déplacés climatiques, après, ils viennent. Ils viennent après
c'est des migrants,
France,
quoi.
Etc. Après, les gens vont dire, ah, pourquoi des migrants? Ma conférence au Pakistan, je l'ai fait fin septembre.
Au Pakistan? Ah, pour le Pakistan.
Je l'ai fait à l'Assemblée nationale.
Okay, ouais.
Avec l'ambassade du Pakistan, différents acteurs associatifs et économiques de ma circonscription qui sont ici du Pakistan. Et on discute des enjeux, comment ça se passe, etc. Parce que c'est un vrai sujet, les réfugiés climatiques.
Okay.
Comment on les accueille, tu vois, sous quelles conditions? Est-ce qu'un réfugié climatique, il va aller devant la préfecture faire la queue à 3h du matin? Est-ce qu'un réfugié climatique, devant la préfecture, va devoir payer 250 euros au black pour avoir le rendez-vous? Tu sais, les gens, ils vendent des tickets à l'entrée. Les guichets sont fermés. On ne vous reçoit plus. C'est devenu sur Internet, etc. Comment tu fais quand tu viens d'un pays X, tu as subi tous les sévices inimaginables en Libye. Parfois, tu étais soumis à l'esclavage, violé, battu. Ensuite, tu as pris un bateau pour prendre la mer, aller vers l'Europe. La mer Méditerranée, je ne sais pas si les gens le savent, mais elle est super agitée. Moi, j'étais à Marseille pour visiter l'ONG SOS Méditerranée.
Ok.
J'ai fait le point avec eux, etc. J'ai visité le bateau. J'ai vu des images. Quand les gens prennent le bateau, si quelqu'un prend le bateau pour aller vers l'Europe, c'est vraiment que, voilà, il fuit quelque chose de dramatique. J'ai visité l'Afrique. Ceux qui sont dans des bonnes situations, en général, pour venir en Europe, ils prennent l'avion, voilà. C'est ceux qui sont en difficulté, qui font le maximum avec leurs économies pour prendre le bateau et venir vers la France, tu vois. Vers la France, l'Italie ou tout ce que tu veux. Mais c'est des gens qui sont en détresse absolue.
Ouais, donc toi, tu dis un sujet sur lequel toi, tu te mobiliserais, c'est d'être...
Pourquoi les gens se déplacent?
Voilà.
Pour reprendre l'origine du truc.
C'est ça.
Pourquoi ils se déplacent?
De revenir aux origines.
Au niveau économique, parce que truc, tu vois, tu dis, ah, si maintenant c'est des grands groupes européens ou français qui sont dans ces pays-là et qui puisent les matières premières et qui permettent pas à ces pays-là d'avoir une expansion ou une ascension, on va dire à ces groupes français-là, écoutez, là vous êtes dans tel pays, arrêtez vos bêtises, parce que le fait d'être là-bas et d'agir en mode oligopole, c'est pas bon. Parce que au final, les jeunes qui sont sur place et qui veulent créer des structures ou qui juste veulent consommer tout, vous gérez ça à 5-6, ça ne permet pas à la jeunesse de se développer, à l'économie locale de se développer, même de se découvrir aussi, tu vois. Au final, les gens font quoi? Ils vont tous vers la capitale. La capitale est surchargée, après ils vont tous vers l'Europe, etc. etc. Donc en fait, et qui l'origine du truc? C'est le système néolibéral et capitaliste. Parce que des structures viennent là-bas, ils étouffent tout le monde, ils écrasent tout le monde. Donc les gens, à part consommer, ils ne peuvent rien créer. Même trouver un emploi, c'est compliqué. C'est ça. quand tu vois, par exemple, je prends encore le Congo comme exemple, hein, mais tu vois le mine avec le cobalt lithium,
ouais,
tu vois, c'est tous les matières premières nécessaires pour la transition écologique.
Ouais.
Demain, tu peux dire, ah, le Congo, ça peut devenir un hub, en fait, tu vois, avec la transition écologique. Bah, tu vois que les minerais sont juste extraits. J'avais fait, moi, une question en commission des affaires étrangères, ou même dans la vidéo, dans le montage, on a mis une séquence où tu vois que les jeunes, ils sortent de la mine comme ça. Et il y a un éboulement où tout tombe, et tu vois que les jeunes, ils rigolent. Et tout. Bon, c'est un jeu, de sortir de la mine en mode, tu vois,
On s'échappe, quoi.
On s'échappe avec un éboulement énorme. Il peut tomber, il peut se tuer, tu vois.
Il y a des gens qui peuvent mourir, qui sont morts, j'imagine.
Qui sont morts et qui restent bloqués dans les mines, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Les mines, elles sont là. La matière première, elle est extraite. Elle est envoyée en Chine. Et la Chine, elle transforme après sur place. Et après, c'est le premier exportateur mondial de batteries électriques.
Ouais.
Est-ce que le Congo peut créer une usine et faire sur place et créer de l'emploi, tu vois?
Ouais, non, je vois.
Vous avez les matières premières sur place, transformées sur place, directement.
Mais la question qu'on va se poser, cette critique du capitaliste qu'on entend, moi ici, sur ce podcast ou sur d'autres médias, j'ai vocation à chercher à réfléchir à un nouveau style de business, un business à l'africaine, un business avec de l'Ubuntu, avec des valeurs. Mais je me suis toujours posé la question de savoir, vous, chez les LFI, c'est quoi votre vision d'un business qui serait plus éthique, qui serait plus responsable, tu vois? C'est quoi votre vision? Comment est-ce, quel message vous avez pour les entrepreneurs, vous? Ou quel programme vous avez pour les entrepreneurs?
Là, tu vois, il faut dissocier, hein, entrepreneur ou capitaliste du 440, etc.
C'est intéressant déjà.
Tu vois, il y a un monde qui sépare, tu vois, les TPE, PME et ensuite les GE.
D'accord.
C'est deux réalités différentes. Il faut que déjà, les gens soient mieux payés, tu vois, en termes d'éthique. Parce que souvent, ceux qui abusent, c'est les gros groupes. Dans les TPE, PME, ton patron, tu le connais, tu discutes avec lui, il y a une approche qui est différente. Tu vois, moi, j'ai dirigé une TPE, ben, mon salarié, on discute, on est des amis, même des fois, on va en vacances ensemble.
D'accord.
Tu vois, demain, il me dit, je dois gagner plus, on va discuter tranquille, tu vois. Mais par contre, les grosses structures, ton patron, tu ne vois pas. Tu as un actionnaire qui te dit, il faut faire ça, tant de chiffres, c'est pas fait, tant pis et tout. Tu vois. Les termes éthiques, il faut mieux payer les gens. Tu vois. Et quand tu payes mieux les gens, ben, si tout le monde paye mieux les gens vont consommer davantage.
Ouais.
Ça va alourdir vos bons de commande. Peu importe ce que tu vois, ce que tu vends. Demain, dans un quartier, tout le monde est payé au SMIC. Le boulanger, il le ressent. T'inquiète pas, le boulanger il va te dire qui est payé quoi. Discutez avec vos boulangers dans les quartiers, ils vont me dire comment ça va. Le jour où ceux qui gagnent le SMIC sont augmentés de 200 euros, le premier à ressentir ça va être le boulanger aussi.
Ok. On va lui acheter des croissants. Au début, on achetait que du pain. Là, les gens, ils vont
aller voir le boulanger. On va dire ah ouais, les mecs qui me faisaient des crédits avant, ils en font moins. Ah, j'ai vu que les gens achètent des pâtisseries. C'est ça les petits aspects. Allez voir vos boulangers. Et demande-lui c'est quoi la température du moment.
Ouais.
Il va vous dire, ah là, c'est compliqué. Là, les gens vont mieux. Là, tu vois, les gens, ils sortent des 1 centime. Là, 5 centimes, ils n'ont pas, tu vois. Ou l'épicier du coin. C'est les petites structures comme ça qui vont vous donner le tempo. Moi, je suis beaucoup regardant là-dessus, tu vois.
D'accord.
Et il faut augmenter, tu vois. Si tu augmentes, tu vois, c'est eux qui sont les premiers impactés. Après, les gens font d'autres choses. Parce que demain, celui qui gagne le SMIC, demain, tu lui manques de 200 ou 300 ou 400 euros net. Il ne va pas acheter des actions chez Total. Il va aller réinvestir dans l'économie circulaire.
Ouais. Il va plus consommer. En tout cas, il va s'octroyer des plaisirs qui ne pouvaient pas.
C'est ça la vision de la France insoumise.
Mais du coup, à côté de ça, je pense que les entrepreneurs, eux, ils vont s'inquiéter de dire que le changement de pivot qui va faire basculer sur les salariés, eh bien, ça va surprotéger les salariés au détriment des employeurs aussi.
Non, on parle juste de questions salariales.
Là, c'est justement, là, t'as parlé de questions salariales, mais on peut poser la question des licenciements, tu vois, de la protection contre les licenciements, qui sont quand même assez fortes en France. Quelle discussion et quelle position vous avez sur ce sujet-là?
Je vois pas, moi, non. Regarde, récemment, ils ont fermé Camailleux, tout le monde est parti, tu vois.
Ouais.
Tu licencies comme tu veux en France.
Ah, tu penses?
Ouais, franchement, moi je trouve que tu peux faire une rupture de contrat, une rupture conventionnelle, tu discutes avec ton salarié. Y a pas de... Moi je l'ai vécu en tant que gérant et je l'ai vécu aussi en tant que salarié.
D'accord.
Des ruptures conventionnelles, tu vois.
Toi, tu penses pas qu'en France, les salariés sont trop protégés.
Non. Et non. Même, je pense qu'il faut les protéger. Mm-hmm. Même celui qui est entrepreneur, tu vois, des fois, t'es auto-entrepreneur, t'es tout seul, y a pas de souci, pas de sujet. Ou des fois, t'as une structure aussi, mais faut savoir qui tu recrutes. Faut discuter avec les salariés aussi. Mm-hmm. Les gens, pourquoi des fois ils veulent partir ou pourquoi ça se passe mal? Parce qu'il y a une mauvaise gestion. Mm-hmm. Les patrons aussi doivent se former. Mm-hmm. Les gens, des fois, quand ils sont patrons, ils pensent qu'ils ont l'alpha et l'oméga. Mm-hmm. Moi, j'ai pas l'alpha et l'oméga, tu vois. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, j'essaie de voir comment je peux et tout. Et après, il faut améliorer le relationnel des gens, tu vois. Mm-hmm. Demain, une meilleure ambiance au travail, créer aussi une meilleure alchimie dans les actions aussi. Mm-hmm. C'est le béaba, tu vois.
Mm-hmm. D'accord.
Mais après, disons frustré, ben, ça crée une frustration au travail, à la maison, au foyer et tout. Et donc, on est dans un cercle qui n'est pas vertueux et qui fait qu'on n'arrive pas, quoi.
D'accord. Et donc, ce que toi, tu dis, la réflexion que vous avez, c'est. Pour les entrepreneurs, il faudrait, en tout cas, le message que vous avez sur l'entrepreneuriat, c'est de créer, déjà de travailler beaucoup avec les TPE et les PME. C'est la critique que vous portez, c'est surtout sur les grands groupes, comme même sur les, quand vous critiquez les riches, c'est pas une critique de monsieur et madame tout le monde qui gagnent 4-5 000 euros, parce qu'en France, je sais pas si t'as entendu, on considère que t'es riche à partir de 3 700 euros par mois, tu vois. Ou c'est pas ceux-là que vous critiquez.
Non, même dans le programme présidentiel, on avait bien évoqué, on pouvait faire des impôts sur 14 tranches, tu vois. Mm-hmm. Et c'était vraiment ce qu'ils gagnaient à partir de 5 000 euros, mm-hmm. si je ne me trompe pas, qui allaient voir leurs impôts augmenter, tu vois.
5 000
ouais.
D'accord.
C'était 4 000 et quelques, je n'ai plus le chiffre exact, hein. Mm-hmm. Mais c'était ça. Mm. Et il y a un, parce qu'en fait, aujourd'hui en France, de 2 500 à 5 000, je crois, c'est la même tranche.
D'accord.
Il y a un monde qui gagne 2 500 euros et 5 000, il y a un monde différent, tu vois. Et en plus, aujourd'hui encore, s'ils gagnaient 2 500 euros en 2022... Avec l'inflation,
ouais, c'est pas pareil.
Si tu gagnais 2 500 euros, qui faisait le malin, aujourd'hui, c'est comme si tu gagnais 2 000.
Ouais,
si tu gagnais 1 500, c'est comme si tu gagnais 1 200. Celui qui est à 1 200, aujourd'hui, c'est comme s'il était à 700, tu vois.
Ouais.
Quand le paquet de pâtes qui était à 1,50 euros est passé à 2,50, mm-hmm. quand tout ce qui est lié à l'alimentaire a augmenté à hauteur de 50%, mm-hmm. comment tu fais? Mm-hmm. Moi, là-bas, je fais mes cours chez Lidl. Mm-hmm. Chez Lidl, ça a super augmenté, tu vois.
Ouais.
Maintenant, il faut aller dans les grosses centrales, aller soit à Leclerc, Auchan, parce que Lidl n'arrive pas, parce qu'ils n'ont pas des grosses centrales, tu vois.
D'accord.
Mais c'est ça le vrai sujet, tu vois. Et moi, je suis content parce que des fois, les crises économiques, ça permet aux gens de redescendre. Moi, je me rappelle quand je faisais campagne, j'allais voir les gens qui gagnent 2 500 euros, ils me disaient les grossistes, ah ouais, vous et les filles, tu vois, moi, je gagne 2 500 euros, je sais pas, c'est pas pour vous que je vois. Je dis, mais je t'explique, nous, c'est tatatata, j'explique, on parle de 14 tranches et tout, et nanana, on parle des ultra riches. Tu n'es pas riche, tu gagnes 2 500 euros, tu n'es pas riche, tu vois. Mais les gens, à un moment donné, il y a 3-4 ans, si tu gagnais 3 000 euros, ils se considéraient pour des riches.
Ouais.
Et aujourd'hui, l'inflation montre à tout le monde que, hey,
redescend.
Tout le monde doit être dans le zéro gaspillage. Et même moi, j'ai dit, ouais, des fois, je connais des gens, des médecins, ils font super attention, tu vois. Ils font super attention et des fois, tu vois des gens qui nous ressemblent, ils sont, dès qu'ils ont un haut poste, et ils consomment comme si, tu vois.
Ouais.
Ils disent, attention, il faut se gérer. Parfois, on me dit, ouais, Carlos, t'as un crevard. Je dis, non, tu vois, je suis un prof d'économie et donc parfois, je regardais, je dis, non, là, ça, tu vois, tac, paf, tout. Tu vois. Même à un moment donné, quand il y avait ma polémique, il me dit, mais comment il achète deux appartements s'il gagnait 1900 euros Ben, tu vois. Et en plus, avec toutes les enquêtes, j'ai dû réplucher mes comptes de 2018 à 2022. Je regardais comment j'ai géré mes trucs, tu vois. J'ai bien géré, j'ai fait ça. Après, on m'a prêté un peu pour payer les frais de notaire, tac, tac. T'arrives devant la banque, t'as le pécule qu'il faut, tu vois, t'es prêt.
Une gestion saine. Et
parce que moi, dans mes relevés de comptes, tu verras jamais Betclic, Winamax, boîte de nuit, cristal, bouteille, tu verras jamais ça dans mes trucs. Et les gens ils vont dire, ah, c'est un crevard, tu verras pas Beefcut, tu verras pas Louis Vuitton, acheté, tu vois. Et les gens ils vont me dire, ah, avant les gens me disent, ouais, putain, t'es un crevard, tu vis pas, pourtant, tu vois.
Mais c'est surtout que t'as une gestion saine, c'est ça que tu dis, consommation saine.
Faut avoir une gestion saine, tu vois.
D'accord.
Une gestion saine, et ça fait la différence.
D'accord. Et c'est ce que tu prônes. Mais on n'a toujours pas parlé encore du livre. C'est noir.
Ça, c'est dans le livre aussi, ça aussi.
Ah, d'accord.
Je vous invite à découvrir le livre.
Mais donne-nous envie. C'est quoi le message? Parce que j'imagine que quand tu as écrit ce livre, bon, tu l'as dit, c'est après la polémique. Si pour rappeler.
Ça a accéléré. Moi, j'ai commencé mon livre depuis. Quand même. J'ai toujours écrit, moi, des petits trucs.
Ok.
Dans mon coin.
D'accord.
Avant, je faisais un groupe de musique même avec mes potes.
Ah ouais, ouais. T'es rappeur.
Pourquoi directement, on dit musique, tu dis directement rappeur.
Parce que nous, qu'on se connaît.
Ah, voilà. Ouais, j'étais rappeur.
Ok, rappeur. D'accord. Ok. Donc, t'as toujours été un écrivain. C'est ça que
j'ai
tu veux dire.
J'ai écrit des petits trucs et tout. Okay. Moi, à un moment donné, dans mon groupe, il y avait un mec qui était là. On était trois. Mm-hmm. J'écrivais même ses textes à lui.
Ok. Donc,
j'écrivais ses couplets et tout.
C'est quoi tes influences en termes de rap? On va savoir. Oh. Comme t'es un mec de Villiers-le-Bel, t'es un enfant d'Arsenic, tout
ouais,
ça.
Ouais, Arsenic.
Donc vraiment la plume, quoi. La punchline. Ok, d'accord. Après,
j'écoute de Sibouba et tout, tu vois, un peu de tout. Mmh. Mais voilà, c'est. Moi, j'ai beaucoup écrit.
D'accord.
Et après, j'ai arrêté la musique quand ma mère est décédée, tu vois, parce qu'elle voulait pas que je fasse de la musique et tout. Mmh. Et tu dis, vas-y, et tout, elle est décédée, je vais arrêter le son, laisse tomber.
Ok.
Et j'avais toujours mes petits, tu vois, j'écrivais des fois des petits trucs dans mon coin et tout.
Ok.
Et après, avec mon pote, il m'avait dit un jour, tu sais quoi, viens un jour, on fait une série, tu vois. Mmh. C'était en 2014, en 2015, on fait une série un jour. Je dis, ok, vas-y. Donc, on écrivait à chaque fois des petits trucs. Après, je me suis dit, bon, là, je crois que je vais écrire un livre et tout.
D'accord.
Parce qu'à l'époque, je m'étais dit ça aussi quand j'étais en BEP et que j'ai fait bac pro, j'ai fait BTS licence. Mmh. Je m'étais dit, si je veux un master, j'écris un bouquin.
D'accord.
Malheureusement, ma mère est décédée aussi, j'ai dû arrêter les études. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je n'ai pas été en master, mais peut-être que je ferai un livre un jour si j'accomplis quelque chose de grand.
Ok.
Tac, tac, je deviens élu en 2022. Mmh. Tu vois, je fais différentes campagnes municipales. Mmh. Chaque fois, même si je suis suivant de liste, j'arrive à avoir, tu vois, un aspect stratégique et tout. Tu vois, dans mon livre, je reviens sur différents points. Mmh. Comment faire campagne et tout avec la mobilisation citoyenne.
Ok.
Et en 2022, je dis, ouais, dès que je suis élu, je dis, là, je vais écrire tout ce que j'ai fait, tu vois, en juin. Mmh. En septembre, je rencontre une journaliste de RTL. Mmh. Et je lui dis, ouais, je vais... Il y avait beaucoup de la polémique sur Adrien Quatennens par rapport à sa femme. Et on parle en manif, je dis, vous savez quoi et tout. Moi, j'ai écrit un livre et ma mère était femme battue. Mmh. Et je vais évoquer en fait les différents sujets, en fait, l'impact psychologique que ça renvoie aux enfants, en fait.
Okay.
Le traumatisme qu'ils ont en fait à vie.
D'accord.
Je dis, parce que là, on parle beaucoup d'Adrien Quatennens,
ouais.
Mais on ne parle pas des enfants, en fait. Et même de la lutte.
Mmh. Tu vois, sur le sujet.
Parce que les violences qui sont intrafamiliales, les enfants restent marqués à vie. Mmh. Ça crée un traumatisme jusqu'à... Aujourd'hui, je dis, moi, je suis traumatisé, tu vois, de ce que j'ai vu.
OK.
Et qui me dit que demain, tu vois, on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Mm-hmm. Et je lui dis, j'écris un livre et tout. Et je dis ça, depuis, la journaliste, après, on parlait souvent en message. Mm-hmm. Je dis, et tout, votre livre, il en est où et tout. Je dis, ouais, là, ils sont en cours et tout. Mm-hmm. L'épisode du mois de novembre, ça accélère l'écriture de mon livre.
D'accord.
Parce que j'ai plein d'éditeurs qui me contactent par rapport à l'épisode de l'Assemblée nationale, les propos racistes, surtout en Afrique. Mm-hmm. Et puis voilà, le livre il continue, ouais. Il s'accélère au mois de décembre.
Okay.
Après moi j'ai beaucoup de voyages politiques, mm-hmm. comme tu as vu sur les réseaux sociaux. Donc à chaque fois que je suis dans l'avion ou dans le train, j'écris. Mm. Et puis voilà.
D'accord. Tu fais pas comme ces politiques qui délèguent complètement l'écriture du livre. Toi tu te dis que tu as ce cœur-là ou cette volonté toujours d'écrire toi-même les choses.
Non, mais tu peux pas déléguer.
Il y en a qui le font.
Complètement.
Ils prennent des ghostwriters, tu vois.
Oui, mais dans tous les cas, je pense que le ghostwriter, il reprend les propos de la personne, tu vois.
J'imagine.
Moi, je suis quelqu'un, parfois, j'ai beaucoup de fautes ou autres, de syntaxe.
Ouais. Vois,
j'écris mon truc. Mon idée, pour moi, elle est bien, tu vois, parce que je l'écris en mode peura. Tu vois, tac, tac, tu dis ça, tu repars là.
Ok, je vois.
Mais après, il faut quelqu'un qui soit là pour dire non, là, on va restructurer comme ça, ce petit bout, on va le mettre là,
oui.
Tu vois.
Ça, c'est de l'accompagnement à l'écriture, c'est ça que tu
veux dire ? Ouais, j'ai eu l'accompagnement.
Ok.
T'es obligé, mais tu vois.
T'as pas pris quelqu'un, avant qu'on appelait ça les nègres, tu vois, qui écrit le livre pour toi, c'est ça ?
T'as quelqu'un qui t'accompagne.
Ok.
Tu vois.
D'accord.
Après, à quelle dimension, à quel degré, ça dépend des séquences. Demain, quand tu es sur la séquence retraite, tu dois finir ton bouquin. Tu fais comment ?
Ouais.
Tu vois, moi, je critique pas ceux qui font appel à quelqu'un même à 100%. Mm-hmm. Parce qu'il y a des réalités dans la vie, tu sais, que tu peux pas gérer.
D'accord.
Les auditeurs, ils vont dire, ah, il a pas écrit, tu vois. Moi, je sais pas de qui il parle. Mm-hmm. Il faut respecter les gens. Mm-hmm. Tu vois.
D'accord.
Moi, c'est mon bouquin. Je suis passé par différents processus, tu vois, pour le faire. Mm-hmm. Et je l'ai écrit depuis longtemps. C'est une vraie histoire de vie, tu vois.
Et du coup, c'est ça. Quand toi, tu l'intitules Français noir, c'est quoi les...
Noir français.
Mais attends.
La sémantique est importante. Pas en français noir.
Mais je te jure que j'ai lu... Au début, j'avais lu français noir. Mm. En fait, au début, j'avais lu noir français. Après, tout à l'heure, en faisant des recherches, je suis tombé sur français noir. Et là, maintenant que tu me donnes, c'est vrai que c'est marqué noir français. Donc, le titre, tu te dis noir français. Bon, bref. Je viens pas aborder la question de savoir pourquoi t'as mis noir avant français. Bah si, peut-être. Pourquoi
non,
t'as
parce
mis
que
noir
à la base, moi, c'est noir foncé aussi.
Noir foncé.
J'aime bien aussi ce mot.
D'accord.
Parce que chaque fois, à chaque fois, entre nous, des fois, les gens disent ouais, toi t'es noir, moi je suis clair, je suis plus.
Ouais,
ça existe entre nous aussi.
Bien sûr, bien
pour
sûr.
Pas, faut se dire la vérité. Mmh. Là, un peu moins. Mmh. Mais moi, j'ai connu une époque où les gens étaient vraiment en mode.
Plus t'es clair, plus voilà. T'es beau, plus
moi,
t'es riche.
Moi, j'étais toujours noir foncé, je m'en fous.
D'accord.
Tu vois.
T'assumes d'être noir foncé.
Tu vois.
Ouais, mais après, parce qu'il y a des gens qui vont dire si tu mets noir français, ça veut dire que t'es noir avant d'être français.
Bah, je suis quoi?
Non, ben moi, je pose la question.
Récemment, j'ai dit, si demain je suis à Menton, je n'ai pas mes papiers sur moi, je suis parti faire un jogging, on va m'arrêter, on va me dire, t'es un migrant, tu viens de l'Italie.
Totalement.
Même si je dis aux gendarmes, je suis député, on me dira, allez, mettez-vous contre le dos, vous êtes bourré en plus, faut raconter quoi? Allez, c'est une vérité.
Ouais.
Dis, qui fait la différence entre moi et un migrant noir, on passe comme ça dans la rue? Il
n'y
a pas de différence.
Ça fait que tu portes un beau costume.
Non, mais je t'ai dit, si demain...
Non, j'ai compris, je t'ai taqué.
Voilà.
J'ai compris. Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, demain, si je suis habillé normalement, parce que je fais un jogging, je cours ou autre, on va dire, voilà. Il n'y a pas de différence, tu vois.
C'est que peu importe ta situation, même ton niveau social, on va toujours te rappeler que t'es un noir. C'est ça.
Les gens, c'est ce qu'ils vont regarder en premier. Même si les gens vont mentir devant ton podcast, non, mais les trucs. Et quand ils regardent d'abord, je te dis, moi, de voir quand je te vois les institutions, je vois dans ses yeux.
Ouais.
Dis, monsieur le député, bonjour. Mais tu sais que au fond de lui, tu vois, on se sait. Donc voilà, c'est ça, ce bouquin. Mais il y a aussi la sémantique noir foncé, noir français.
D'accord.
Mais même français noir, noir français, de toute façon, ça sonne mieux.
Ouais, en termes de formule. Ça c'est le côté rap qui fait. T'as envie d'une belle formule.
Ça sonne mieux déjà.
Ouais, moi français. Je suis d'accord. Moi j'aime bien.
Et pourquoi français noir? Ça veut rien dire pour moi.
C'est toi qui es libre de
le
dire. Mais en fait, c'est les critiques. Les gens, ils vont dire. Lui, il se considère comme un noir. Après, il se considère comme français. C'est
non,
ça le.
C'est
le
dans la même phrase. Il n'y a même pas de point.
C'est vrai, c'est vrai. Mais. Alors donc, maintenant, si on récapitule un peu, être français.
Attention en plus, hein, parce que là, ils sont hypocrites. Hein. Et moi, je connais des Bretons et des Corses. Ils se considèrent comme Bretons avant tout.
Ah,
surtout. Personne ne dit rien. Les Normands ou tout, on ne dit rien. Les Picards, on dit ah oui, moi, je suis.
Ouais.
À un moment donné, il faut arrêter. Hein.
Oui, mais en même temps. Toi, on sent que t'es pas le député des Noirs, par exemple. Tu vois?
C'est-à-dire que. Je suis député de tout le monde, je suis député
exactement.
Français.
Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ça qu'on peut dire que t'es français avant tout. Dans le sens où, dans ton discours, on entend bien que toi, t'es venu pour représenter toutes les personnes qui ont ta sensibilité, qu'elles soient noires, blanches, arabes. C'est pas ton problème à toi.
Bien entendu.
Non, mais c'est intéressant qu'on en parle.
Je suis un acteur politique.
Ouais.
Moi, je représente. Déjà, une fois que t'es élu, tu représentes tout le monde. Même ceux qui ont voté RN dans ma circonscription,
tu les
je suis leur député, tu vois. Peut-être ils le vivent mal, peut-être ils pleurent le soir, ils font des cauchemars, ils font des bougies pour que j'ai des problèmes. Mais malheureusement pour eux, je suis le député. Ceux qui ont voté pour le député de la Macronie, l'ex-député, ben, malheureusement pour eux, ils font des bougies, ils font des prières pour que j'ai des problèmes.
Mais tu les représentes.
Aujourd'hui, je suis leur député. Et ensuite, ceux qui ont voté pour l'élu de la gauche, donc moi, sont contents d'avoir Carlos Bilongo, Martins comme député, tu vois. Et ils font des prières pour que tout se passe bien pour moi.
Ouais,
certains, tu vois, pour les croyants. Mais je représente tout le monde, tu vois. Que tu sois blanc, noir, arabe, et tout, moi, c'est des projets politiques. Après, t'es clivant, tu vois. Et même dans l'aspect, tous les noirs ne portent pas pareil.
Ouais.
Ça serait mentir de dire ça. Tu as même des frères et sœurs qui se font la guerre.
Totalement.
Parfois. Donc pourquoi moi je vais mentir aux gens ou chercher à avoir un programme politique qui est calqué de façon raciale? On n'est pas à ce niveau-là. Moi je pense qu'on a un degré de niveau intellectuel où on peut même devoir demain avoir, moi j'ai dit demain on peut avoir deux candidats de la même couleur, face à face. Vous voulez dire quoi? On votait pour le plus clair des deux? Soyons sérieux ou pour plus foncé? Non. Ayons des convictions tranquilles, tu vois. Des convictions politiques qui sont liées à un programme, liées à une vision. Y a rien, pour moi, il n'y a rien de mieux. Au moins, les gens, même si moi, tu dis que tu ne m'aimes pas, au moins, tu aimes le programme, il n'y a pas de problème. Et même demain, moi, je ne vais pas comme dire, ah, j'ai voté parce que c'est un noir. Non. T'as vu le programme, il est intéressant, j'ai bien parlé. Tu valides. Et je pense que c'est comme ça que tu peux rassembler.
Parce que là, ton but, c'est de rassembler.
Bah, il faut rassembler. Un maximum. Je suis un élu de la nation française. Mmh. Il faut rassembler. Mmh. Mmh. C'est ça le vrai sujet et l'important. Mmh. Après, moi, je comprends ceux qui veulent vivre le communautarisme. Mmh. Ça s'entend, tu vois. Il y a des gens qui ont des parcours de vie difficiles. On leur a fermé des portes, etc. Mmh. Ils ont trouvé refuge dans le communautarisme et qui leur a permis de s'élever, de s'organiser. Ça se comprend aussi, tu vois. Mmh. Parce qu'en France, il y a des réalités qui font que les gens sont stigmatisés et parfois on leur renvoie leur couleur de peau. Donc au final, ils s'organisent entre eux et dès qu'ils le vivent bien, bah, ils continuent comme ça. Mmh. Moi aussi, si les gens votent pour moi parce que je suis noir, moi le vote, je le prends aussi. Si dès qu'il a voté, moi je suis content, ça comptabilise. Mmh. Ou en plus, en vrai, tu vois, en aspect politique. Mais après, ces personnes-là, j'essaie de discuter avec eux pour leur donner aussi une vision politique. Pour que ces gens-là aussi soient liés à un parti, liés à une vision et qu'ils me suivent tout le temps. Et même si demain ce n'est pas moi, demain c'est un autre candidat d'une autre couleur de peau, mais qui porte le même programme, bah, vous voterez pour lui parce que c'est les mêmes convictions que Bilongo. Tu vois. Ou pas demain on dit, ah bah c'est un Algérien d'origine, bah, on va pas voter pour lui parce que non. Demain s'il porte la même chose que moi, un Portugais, un Italien d'origine, un Français, un Picard, tout ce que tu veux, c'est de la vision politique. Tu vois. C'est ça le vrai cheminement. Parce que moi, je ne serai pas présent à tous les scrutins que Dieu me prête vie, mais on ne sait pas. Demain, je ne serai pas candidat présidentiel. C'est un candidat, tu ne vas pas dire « Ah, moi, j'ai voté Bilongo parce que c'est un noir. Ah, mon présidentiel, il n'y a pas de noir, donc je ne vote pas. » Après, tu ne vois pas que même au niveau intellectuellement, il y a un problème. Parce que si tu votes pour une législative, il faut que le programme, il faut un programme présidentiel.
Ouais.
Qui est défendu par un député, mais au présidentiel, tu dis non parce qu'il n'est pas là ou c'est pas bon. Tu vois, parce que tout est lié. Même les élections régionales, départementales, municipales, tout est lié, tu vois. Au Sénat, tout est lié. Parce que même les grands électeurs qui sont au Sénat, ils sont élus par des maires et des conseillers municipaux, conseillers départementaux. La vision politique, c'est la meilleure des choses.
Mais alors, je parle pas, j'ai employé le terme intérêt, mais à dessein. Mais il y a quand même une réflexion de dire, voilà, nous, les Noirs français, les Noirs de France, on a des problématiques, tu vois. Des
problématiques. T'as répété Noirs français, tu vois.
Ouais. Voilà. J'ai fait exprès.
Donc j'ai raison dans le bouquin.
Oui, non, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et moi, j'aime bien dire Noirs français plus que Français noirs. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais tu vois, on a des problématiques qui sont communes
et
à tous.
Et pourtant, on s'est pas consulté avant de faire le chat de mon bouquin.
Non. Effectivement, pas du tout. Et donc je disais, on a des problématiques qui sont communes à tout majoritairement les Noirs de France, tu vois. Je dis toujours, quand tu vas dans une ville, tu veux savoir s'il y a des Noirs, viens avant l'heure où tout le monde part au travail. Viens à 5h du matin, tu prends le métro, là tu vas voir que les Noirs, ils sont graves là, tu vois. Parce qu'on est dans des métiers qui sont durs, on est dans des métiers qui sont plus laborieux, tu vois. Les éboueurs, c'est nous. Les femmes de ménage, c'est nous. Tout ça, en réalité, on est très présents.
Agent de sécurité. Pas
que nous. Sécurité, exactement. Il n'y a pas que nous, mais on est nombreux là-dedans. Et la problématique de papier,
de bus.
Tu vois, les problématiques de papier que tu as évoquées, on les a. Les problématiques de discrimination, on les a aussi.
Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas de papier qui travaillent en tant qu'éboueur.
Aussi.
Ils sont arrivés en France à 35 ans, 40 ans, après tu dis retraite. Comment tu vas cotiser 43 annuités, t'arrives en France à 35 ans?
Tu peux pas. C'est un vrai sujet. Donc tu vois qu'on a nos problématiques. Et qui font que on va s'organiser. Et donc, comme on a ces problématiques, moi, je dis toujours que peu importe ton orientation politique, mais normalement, il faut qu'on ait quand même des espaces où on va s'unir pour militer pour des problématiques.
Par exemple, regarde, quand t'es à droite, il y a le projet de loi immigration. Moi, j'aimerais bien que les gens qui font des podcasts et tout, s'ils viennent me manifester. Ah, ça manque de manifestants.
Ouais.
Quand on parle de la loi immigration, y a pas beaucoup de monde.
D'accord.
Moi, je vois beaucoup de mecs sur les réseaux sociaux. Ouais, nous, on défend les trucs. Nan, nan. Mais quand il y a la manif, il n'y a personne.
Ouais.
La loi immigration, moi, les élus de droite, qui sont de sensibilité africaine, quelle va être leur position? C'est intéressant à savoir. Moi, je suis stupéfait. Tu vois,
mais tu m'as quand même dit qu'il y en a qui ne te tirent pas dessus.
Ouais,
parce que
récemment, hier, tu vois, c'était... la journée de l'Afrique à l'UNESCO, j'ai croisé des élus de droite et tout. Je ne savais pas, ils m'ont dit, ah, mon salut et tout. Ils m'ont dit, ah, nous, tout, on te soutient. À un moment donné, dans les boucles, ils ont dit, ouais, venons, on le termine sur les réseaux sociaux. Nous, on a dit non et tout, c'est un frère, on comprend la situation.
Ouais.
Tu vois,
c'est ça.
Dire avec sa sœur, nous, on sait ce que c'est. Ils m'ont dit, nous, on n'est pas du même parti que toi, on est de droite et tout. Mais on soutient ta cause et tout, bravo et tout. Tranquille. Mais cet aspect-là, tu vois, quand il y a un projet de loi qui sort,
ils vont pas se mobiliser.
Je sais pas, ils vont pas se mobiliser, mais même eux, ils seront en difficulté.
Ouais.
Même chez eux, il y a des problèmes, c'est sûr. Ils ont un cousin ou autre. Et la migration, c'est quoi? C'est les OQTF exécutés direct. Combien de personnes autour de vous ont des OQTF?
Ah, moi, j'en ai trop. J'en ai hébergé même.
Tu vois? Et faut se dire la vérité. Aujourd'hui, c'est les politiques de gauche qui sont solidaires et sociales. Oui. Même moi, j'ai vu des gens, moi, quand il y a le sujet sur le bateau, où j'ai pris la parole, même les Renois, ils m'ont dit, ouais, mais aussi, il y a un petit mot de ma circonscription, tu vois, il est tranquille. Il m'a dit, oui, mais après, ils viennent chez moi, ils habitent dans ma chambre, j'en ai marre, et tout. Ils viennent dans mon frigo, ils mangent des yaourts, qui restent où ils sont. Je dis, attends, mais tu penses que ton père, quand il héberge quelqu'un, tu penses qu'il n'y a pas un lien? Non, mais c'est un lien éloigné. Mais je dis, mais tu penses que ton père, si lui, il s'oblige à accueillir ces personnes-là, tu penses qu'ils n'ont pas un lien à l'époque?
Ah oui. Et que lui-même, il n'a pas été accueilli lui-même à un moment.
Tu vois?
Ouais.
Nos parents n'ont jamais fait ça à défaut, par dépit. Ils ont eu cette chance aussi à un moment donné.
Totalement.
Tu vois, ils ont profité de ça aussi, cette solidarité. Totalement. C'est ça qui leur envoie. Et à un moment donné, les gens oublient, en fait, tu vois. Ou des fois, les jeunes ne se rendent pas compte. Ouais, pourquoi il y a un oncle chez moi et tout, pourquoi il mange mes yaourts? Ton père aussi, il a profité de ça à l'époque.
Totalement.
Et qui a fait qu'aujourd'hui, il est en place, il est là et tout.
Totalement.
Moi, quand même, personne n'a habité chez moi. Aujourd'hui, ils sont établis, ils sont là, ils vivent en Angleterre, ils ont une belle vie et tout. Tu vois, et ces personnes-là, ils racontent leurs enfants. Tonton Bilongo, il nous a aidés, il a fait ça. Leur papa, il n'est plus en vie, mais il a fait ça. On a habité chez lui et tout. C'est ça, les vraies histoires, tu vois.
C'est la solidarité.
C'est ça. Et toutes tes questions. Et à gauche, on a le cœur à gauche. Et c'est pour ça que pour moi, et peu importe, tu vois, ensuite, les personnes, leur sensibilité, leur couleur de peau, il faut avoir cette conviction dans la politique. Tu vois, parce que, au-delà ensuite des convictions politiques, quand il y a une cause, la cause africaine et autres, franchement, c'est à gauche que tu te retrouves. Tu peux dire, oui, à l'époque, à gauche, il y a eu un truc, non, ils n'ont pas fait. Hey, mais quand on rentre dans le sujet programmatique,
ouais,
c'est la gauche qui aborde des vrais sujets, oui, la gauche radicale. France Insoumise qui dit oui, sur ça on fait ça, sur les questions antiracistes on fait ça.
Mais tu penses pas que sur des sujets comme tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, le scandale climatique, les problèmes climatiques qu'on rencontre, et l'exploitation.
La droite par exemple.
Bah, justement, est-ce que.
Ils sont climato-sceptiques. Wow. LR, les Républicains, c'est vrai. Mais c'est vrai.
Climato-sceptiques carrément.
Sceptiques. Ils sont là, ils disent non, c'est pas vrai, le dérèglement climatique, arrêté en revenant sur le nucléaire. C'est ce qu'ils disent. Il y a un député de chez Macron, hier, ce qu'il a dit. Il a dit, oui, moi, à la base, j'étais chez LR, maintenant, je suis chez Macron. L'immigration 70. Et même son nom, il a un nom à connotation étrangère.
Ouais.
Un nom allemand. J'ai oublié son nom, ce député. Et moi, je dis ça, toi aussi, t'es un étranger. Tes parents, ton nom, c'est pas un nom français. T'as pas un nom français. Au même titre que moi. Je dis, ouais, t'as même au même titre que moi. Il va dire, non, parce qu'il dit, oui, vous savez, l'immigration en 70, elle était, voilà, et maintenant, elle est différente. Maintenant, c'est l'immigration qui est plus africaine. Dans les chiffres de l'INSEE, oui. 1/2 viennent d'Afrique.
Et alors?
Mais 1/2 viennent d'Europe, alors, aussi.
Aussi.
50-50 ou autre, je sais pas, tu vois.
Ouais.
Il dit, oui, et cette immigration-là, elle a du mal à s'assimiler. Tu vois, à un moment donné, tu vois, faut arrêter. À un moment donné, en France, il y a des gens, ils sont juste noirs, et vous, ils sont nés ici, et vous dites, c'est des immigrés. Tu vois, il y a des gens, des fois, moi, ils me disent, oh, c'est un immigré, tu vois, en vrai de vrai. Il faut se dire la vérité.
Ici.
Je dis, il y en a plein, ils sont nés ici. Mais dans l'imaginaire de certaines personnes, ils se disent, ouais, c'est des migrants, tout ça, lui, là, tu vois. Ils sont maladifs. Et quand on prend les vrais chiffres, l'immigration, elle est sud-sud. Le pays où il y a plus de migrants, c'est le Congo. Les chiffres, les gens, ils viennent de partout. Ils viennent de Rwanda, ils viennent des trucs. Et en France, il y a beaucoup de. C'est la migration européenne. Les gens, ils disent rien quand c'est des Ukrainiens qui viennent en France. Les gens, ils disent rien quand c'est des Afghans ou autres. Encore Afghans, ils sont. Non, les gens sont critiques. Mais l'immigration, elle est européenne. Et il faut arrêter de croire que les Portugais d'origine ou les Italiens d'origine sont des Français.
Ouais, mais moi, mon sujet, c'est pas. Mon sujet, c'est surtout en termes de. Comment dire? Par rapport aux différences entre la droite et la gauche. Et
je te dis la différence là.
Oui, ça, j'ai bien compris. Mais
eux, ils font une immigration choisie et par rapport à la couleur de peau.
C'est ça. Mais est-ce qu'on devrait
pas. C'est un mensonge.
Je suis d'accord, mais est-ce qu'on devrait pas, nous, noirs, qui avons des problématiques communes, essayer de nous fédérer sur ces problématiques-là. C'est ça un peu le sujet.
Déjà, comment tu veux être un élu de droite et défendre ça? Cette immigration choisie par rapport à la couleur de peau. Et biaisée parce qu'ils ne vont pas le dire en face. Mmh. Ils vont faire des sorties médiatiques en disant « Oui, l'immigration a changé. En 70, c'était plus. Voilà. Mmh. Là, c'est ceux qui viennent d'Afrique, c'est un peu plus compliqué. Mmh. » C'est quel mensonge. Il y a des métiers, si les gens originaires d'Afrique ne le font pas, il n'y aura rien qui va fonctionner dans ce pays.
Ça, c'est vrai.
Qui prendra le métro? Personne. Qui va nettoyer le métro? Personne.
Totalement. Totalement.
Vous allez tout prendre. Qui va nettoyer vos chambres d'hôtel? Personne. Il n'y a rien qui va bouger dans ce pays.
Les métiers essentiels qu'on a découverts pendant la crise sanitaire.
Il
n'y
a rien qui va bouger. Moi, RERD, quand tu le prends, il n'y a que des Noirs et des Arabes, des Pakistanais, des Indiens, des Turcs dans le RERD. C'est ceux qui vont vivre la France.
Surtout aux heures.
Le métier du bâtiment.
Décalé.
Le métier du bâtiment, qui fait les travaux? Les rénovations, les constructions d'immeubles. Le Grand Paris, c'est qui? Le Grand Paris, c'est pas ce capitaine Neuilly à Nanterre. Nanterre, encore, ça va. Mon ami, c'est pas le télétravail qui va construire les immeubles. C'est pas le télétravail qui va construire les JO 2024.
On est d'accord.
Donc il faut que les Noirs qui sont chez LR ou chez Macron réfléchissent. Moi, à chaque fois, je leur dis, quand je les vois, ils baissent les yeux. Non, mais tu vois, on a expliqué la dernière réunion, mais ils nous ont pas écoutés, ils sont méchants. Ouais, je dis, bah, tu vois que t'es dans le faux.
Parce que toi, tu
dis... mais à l'époque, il n'y a rien eu, donc j'ai été là-bas pour voilà, il y avait un quota à faire, j'ai été, bon, je t'en veux pas, tu vois, tranquille, bon courage. Mais en vrai de vrai, ils savent.
Et pour toi, c'est la gauche qui porte les sujets qui sont pertinents pour l'Afrique, et enfin, même pas
pour l'Afrique,
pour la diaspora africaine, même
pour
déjà.
La France. Et moi, je pense que la France, pour qu'elle réussisse bien, il faut que les pays autour réussissent, tu vois. Il faut pas que la France, elle absorbe, tu vois, qu'elle soit un pays prédateur. Que ce soit un pays ouvert, tu vois, et un pays ouvert, il collabore avec les autres, et pour collaborer avec les autres, il faut que les autres aillent bien. Moi, c'est ça mon avis. Pour que la France aille bien, si on veut améliorer la France, il faut améliorer nos relations avec les autres. Il faut que les autres pays aussi aillent bien. C'est une vérité. C'est pas la France, c'est pas, de moi, si je dis ça, oui, c'est la gauche qui va sauver l'Afrique. Non, mais tu vois, je vais avoir arrêté, c'est de l'ingérence. Mais au moins, nous, on n'aura pas une politique de prédateur ou, tu vois.
Ok. Intéressant.
C'est vrai, non?
Non, ben, moi, j'écoute. Là, ici, je suis là pour...
Et les gens aussi, il faut qu'ils arrêtent. Ceux qui sont à droite, qui montent voir leur responsable politique pour dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas truc. Il y en a très peu. Moi, j'aimerais bien voir un élu de droite qui dit, oui, j'ai discuté avec Ciotti, je lui dis ça, c'est pas bien et tout.
Ouais.
Et tu vas voir, il n'y en aura aucun. Ils vont dire, non, mais nous, tu vois, économiquement, ouais, nous... Moi, j'attends. Tous les élus de droite, là, qui sont de la communauté, allez voir vos responsables. Ensuite, vous faites la copie de votre courrier comme quoi vous avez écrit, ouais, ça ce n'est pas bien ce que vous faites et tout. Aucun. Okay. Quand t'as la loi immigration, ils viennent même pas. C'est très grave.
C'est pas leur sujet. Ok.
C'est une vérité ou pas?
Non, moi je me prononce pas. Non,
mais
tu vois?
Tout à l'heure, tu m'as dit oui, souvent les personnes qui ont des OQTF ou les personnes qui sont en situation irrégulière, ils sont éboueurs et tout, ils travaillent en plus.
Totalement.
Il faut venir dans ces mobilisations.
Je l'entends, je l'entends. Ça, j'entends très bien.
L'éboueur qui est passé souvent à la télé. Tu vois, il y a, j'ai oublié son nom. Putain, il est super intéressant. Il a fait BFM, il a fait différents plateaux pendant la réforme des retraites.
Ok, j'ai pas vu.
Et
lui, un frère aussi?
Un frère.
Ok.
Les gens ne l'avaient jamais dans les plateaux, les podcasts. Mais il a été sur BFM et après, il a fait beaucoup de médias de gauche, tu vois.
Ok, bah, tu me donneras son nom, je vais l'inviter.
Ouais. Franchement, il est super intéressant.
Ok.
Il explique, il dit, cherché. Voilà, c'est Sidi B, je crois, son nom. Il dit, nous, on meurt plus tôt.
Ouais.
Il dit, moi, j'ai de la chance que je suis passé maintenant chauffeur. Avant, j'étais derrière, dans les camions. Mais il a dit, on meurt plus tôt. L'espérance de vie, elle est amoindrie de 10 à 15 ans.
Non, ça ne m'étonne pas. C'est les métiers pénibles. C'est ça. Et nous, on est surreprésentés dans les métiers pénibles. Donc, il y a un vrai sujet. Je suis d'accord. Enfin, il y a un vrai sujet.
Et les métiers pénibles, on est surreprésentés. Et aussi, il y a la question liée aux régularisations. Aux régularisations.
Ok. Ouais.
Les gens, souvent, sont pas petits, tu vois. On a vu à Chronopost, souvent, c'est des frères qui sont là-bas qui travaillent. Maintenant, les gens aussi, la communauté, ils aiment bien différencier. Ils se disent, ils prennent. Et des fois, certains prennent. Les frères, c'est ceux qui sont nés en France et qui sont français. Et après, ceux qui viennent du bled, c'est pas les frères. Des blédards qui sont.
Ça, c'est un vrai problème.
Ils sont pas
aussi.
Investis dans le truc. Frères, c'est que ceux qui ont réussi un peu. Ah, c'est les frères. Ouais, ouais, ouais. Pour les trucs.
Non, nous, c'est pas ça. Nous, notre sujet, c'est on est tous ensemble, qu'on soit des blédards, qu'on soit des racailles, qu'on soit même des bolos, ceux qu'on dit des bolos, tous, peu importe tes renois, on a des problématiques qui sont communes.
Très bien.
Et l'idée, c'est d'essayer de travailler sur ces problématiques-là.
Moi, je pense qu'il faut être plus solidaire aussi avec les gens qui définissent un tel, c'est un blédard.
Ouais.
On n'est pas assez solidaire.
Bien sûr.
Entre nous, on n'est pas assez solidaire avec des frères qui nous ressemblent, qui n'ont pas de papier.
Alors que c'est nos pères, c'est nos mères qui ont été ça il n'y a pas si longtemps, tu vois.
Mes parents, moi, ils devraient être son aquatra.
Moi, je raconte mes parents comment ils sont arrivés ici, tu vois. Les magouilles qu'ils ont dû faire, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand je les regarde, quand je vois un étudiant étranger et tout, je dis, mais ça, c'est mon père. Tu vois,
je te dis, et moi je les vois, tu vois, je fais des conférences dans les facs et tout. Je les vois, les frères, ils font des photos avec moi, ils sont grave contents. Moi, j'étais avec Bordeaux avec John Young.
Oui, c'est vrai,
j'ai vu une conférence et tout.
La semaine dernière.
Combien il y avait, tu vois, des jeunes qui m'ont dit, oui, moi je viens du Tchad, je suis à Bordeaux, à Pessac, je fais du droit et tout. En ce moment, c'est compliqué des papiers. Quand t'es venu en conférence au mois de décembre, j'ai pas pu venir parce que j'ai pas de papier, j'ai eu passe discret et tout. Tu vois, j'ai une stratégie de survie, tu vois.
C'est ça.
Les mecs qui sont là, ils sont fiers, ils disent, putain, je suis trop content de ce que tu es et tout, où tu viens de représenter.
Et ça nous amène à la discussion, l'autre discussion qu'on avait par rapport à quand je me suis pris la tête sur les plateaux avec deux autres frères de la communauté.
Désolé pour toi, merci.
Non, mais c'est normal. Parce que nous, on était là avec Christian. Quand on t'a vu émerger, on a dit, mais attends, un gars comme ça, là, quand je vois mon petit Swan qui est là, ou mon fils même, il est là, il regarde Carlos, tonton Carlos, il se dit, mais non, moi je peux, tu vois. Je peux devenir demain député. Ça ouvre le champ des possibles de manière incroyable. Comme on a supporté Obama, même si on n'était pas, voilà, tu vois, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'Obama a fait, juste pour le symbole, je peux pas lui tirer dessus. Parce que quand mon fils, il voit ça, il se dit, demain, si je suis au state, moi, je peux devenir président de la République. Et ça va lui donner, ça va ouvrir le champ de ses possibles.
Ou en France.
En France, on n'a pas encore l'exemple. C'est pour ça qu'on t'attend.
Il y avait des candidats noirs. Hein. Taubira, des candidats en 2002.
Ouais, Taubira. Moi, c'est pour ça que j'ai une admiration pour Taubira, tu vois, complètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est nous, on veut promouvoir ce genre d'initiative. Et qu'est-ce que toi, ça t'a fait quand t'as vu que des gens te tiraient dessus, te tiraient sur ta virilité comme ça sur les plateaux devant tout le monde, des frères aussi.
Ah, j'ai l'habitude. Tu sais quoi, quand tu grandis en cité. T'es prêt, mon ami. T'es prêt. Dans les quartiers, frère, entre frères, on se tire dessus des fois, dans les quartiers. Parce que c'est rue Dupont et rue un truc. Et après, l'histoire de la vie, hein, on sait, hein. Qui a tué Malcolm X, qui a tué Martin Luther King. Tu vois, on sait qui est qui. Frère, c'est une habitude. Comment tu veux, tu dis, on ne le connaît pas, il est là-bas, on l'a connu par rapport à une polémique, t'as que dans les médias et tout. On fait quoi? On apporte son soutien ou on va chercher la petite bête. Et on oublie le bateau de migrants. Dans le bateau, il y avait des Noirs aussi.
Oui.
Soutenez au moins ces gens-là qui étaient dans le bateau. Tu vois? Dites au moins, ah, il a pris la parole pour que ces personnes-là ils soient secourues par rapport au droit de la mer, qui est un droit qui a été bafoué par Malte et par l'Italie. Les gens ensuite sont arrivés à bon port à Toulon, tu vois? Parce qu'il y a une grosse pression médiatique autour de tout ça. Mais les gens oublient, en fait. Il s'arrêtait juste à savoir, soit c'est kill ou kill ou kill, soit c'est oui, limite, il aurait dû descendre, se battre, il aurait dû insulter, comment il ne réagit pas en plein hémicycle, ah, oh, il connaît pas, moi je vais lui apprendre des trucs, là je vais contacter, on va le coacher. Oui, il n'est pas assez viril, il n'a pas grandi dans les cités, ça se voit que nous, on va lui montrer que. Il n'a pas étudié, il n'a pas de truc, il n'a pas de répartie, il n'a pas de rhétorique. Quand tu parles, t'es où? T'es assis où? Tu vois? Il faut respecter quand même le mandat des gens. Au moins le mandat, tu vois. Tu dis, bon, le gars, il a été élu, on regarde qui l'a battu, il a fait quoi comme scrutin, est-ce qu'il a fait campagne, on le connaît, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, il vient d'où? Voilà. C'est quoi c'est sur le comportement? Après, je respecte, hein, c'est les gens qui ils ont leurs habitudes, tu vois. Mais maintenant, qu'ils regardent, ils disent, ah, on a connu qui comme député, déjà. C'est qui, hein? Est-ce qu'il a fait campagne en se basant sur nous? Ah, bon, il a pas fait une campagne en se basant sur nous, par rapport à un programme. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, vraiment, tu vois, et voilà. Tu vois. Et pas dire, ah oui, il a pas dit ça, bon, on a vérifié ça. Et qui puiser, tu vois, même au mois de novembre, quand ça sort. J'avais déjà fait des interventions liées à différents sujets importants, tu vois. Mais les gens, tu vois. J'avais quoi, 4 mois de mandat. J'ai dit, oui, il n'a pas dit ça. En plus, il n'a pas dit ça. Il aurait dû dire, waouh.
avec des si, on remet pas en bouteille. Hein.
Non, c'est réel. On est d'accord.
Et c'est une minorité. Il y a eu beaucoup de soutien.
Ouais. Moi, c'est... T'as senti plus de soutien que de personnes qui
tiraient attention, dessus. Je me suis fait vraiment tirer dessus par les fachos d'extrême droite.
Ouais, non, mais de toute façon, on n'attendait pas leur soutien.
Vous venez devant mes meetings et tout, tu vois.
Là, j'ai vu. Ouais.
Les gens virils qui parlent, ils sont où? Quand je me fais attaquer par les mecs d'extrême droite, où êtes-vous, tu vois? Venez aussi devant les meetings faire voilà, les Black Panthers. Mm-hmm. Défendre un frère qui est là, qui fait son activité politique tranquillement, et on voit que des mecs, des suprémacistes blancs veulent en venir attenter à sa vie. Mmh. Est-ce que les gens vont être contents si demain on dit « Carlos est assassiné après un meeting par des blancs ?» Qu'est-ce qu'ils vont envoyer à vous et à vos enfants? Ah, papa là, Carlos a été élu, il est mort, et tout le monde, ta femme va dire « Non, la politique c'est pas pour nous, parce qu'il y avait un jeune qui était là, un noir, il s'est fait fumer parce que noir. Parce qu'il abordait des sujets importants. » Tu vois, c'est ça le sujet. On est plus fort ensemble ou en se tirant dessus comme ça, en ne se connaissant même pas? Ben moi, qu'est-ce que ça va me renvoyer? Demain, ces gens-là, je vais dire, ah ben, je les aime pas parce qu'ils m'ont critiqué dans une vidéo, tu vois. J'en veux pas, tu vois. Moi, chacun d'eux qui est sympathique, je les respecte. Demain, je dois leur serrer la main, je vais leur serrer la main, tu vois. Respect à eux, même là, je leur passe, je leur dis bien le bonjour. Moi, je suis un acteur politique. Donc moi, mon mandat, il sera pas entravé par leurs propos. Même s'ils vont faire des vues sur mon dos, même s'ils vont critiquer, même s'ils vont faire des trucs, c'est pas grave, tu vois. C'est la vie d'être critiqué. Il faut accepter d'être critiqué, tu vois. Mais je pense que par rapport à eux, ce qu'ils veulent porter, ces valeurs d'unité, ils devraient avoir une approche différente avec une personne qui porte un mandat et qui leur ressemble, parce que demain, ces gens-là peuvent me contacter pour un sujet. Carlos, ben, tu vois, sur ça et tout, prends parole par rapport à ça. Vas-y, volontiers et tout, vas-y, on regarde et tout. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des trucs où, récemment, je suis intervenu sur l'Haïti.
Ouais.
C'est quelqu'un qui m'a envoyé le document. Il m'a dit, voilà, il y a ça, tel sujet, c'est quelqu'un d'important.
Tu as plaidé pour les réparations en Haïti.
La dette coloniale.
Et tu as critiqué le comportement ou l'intervention et la prise de position de Macron sur l'esclavage, finalement, c'est ça.
Toussaint Louverture, tu vois, quand tu dis que Toussaint Louverture est français. On a vu qu'il a été capturé et qu'il est mort de sévisme subi en prison, tu vois. Mais, tu vois, c'est ça les sujets importants. C'est là où on doit être au rendez-vous.
Et tu dis qu'il y a des gens qui te sollicitent. Au lieu de te critiquer, eh bien, vous savez que quelqu'un est là, quelqu'un est sensible à ces sujets. C'est ça aussi, surtout. En fait, c'est pas juste un noir. T'es juste un noir qui est sensible au sujet de réparation.
À différents sujets. Je porte aussi des sujets sur la Turquie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord.
Non, bien sûr, je sais très bien.
Aussi, essentiellement, sur la France, parce que les gens, tu vois, ils vont faire des découpages. Ah, c'est le député des Africains, ne votez plus pour lui, parce que, tu vois, attention.
Ouais, totalement. Parce
que vous aussi, qu'est-ce que vous voulez? Je vois qu'il me ressemble. Vous me mettre en porte-à-faux, en difficulté? Parce que je veux le dire la vérité. Dans un pays africain, j'aurais jamais été élu dans ces conditions. Je prends encore la référence de mon pays d'origine, le Congo. Quand je discute avec des jeunes, ils me disent « Vous savez, M. Bilongo, vous avez été élu sans les t-shirts, sans argent, etc. Au bled, nous, c'est impossible. Pour devenir député au bled, c'est très compliqué.
Faut que t'arroses toute la terre, quoi.
Faut que t'arroses toute la terre, après t'es élu. Et même qui puisait, je dirais pas les noms, ils m'ont dit « Les élections, elles sont faussées parfois. » Donc, là, j'ai été élu démocratiquement en France. J'aurais pas pu le faire dans nos régions, parfois. Regardez ce que subit Sonko au Sénégal et tout. Allez, mais soyons quand même indulgents et voir si on peut faire avancer les choses ici et ensuite avoir un impact là-bas.
Ok.
C'est ça aussi le vrai sujet.
Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Je vais pas rester encore trop longtemps pour te retenir, mais moi je me pose toujours la question de comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu... Parce que moi je sens que tu as progressé beaucoup en un an, tu vois. On sent que toutes ces activités-là, ça a eu un impact positif sur toi. Et je me demande quelles sont tes routines de travail pour préparer les sujets, pour absorber toute cette masse de sujets, de réflexions qu'on attend de toi. Comment est-ce que tu fais?
Déjà, moi, je t'ai dit au début d'interview, je prends le calendrier. Le calendrier français, il y a différentes dates importantes. Et tu sais aussi, on a un calendrier parlementaire. Et là, tu te prépares déjà. Tu dis, il y aura ça comme séquence. En même temps, moi, après mon épisode de mois de novembre, quand j'ai eu beaucoup de soutien, derrière, j'ai fait une tournée, toute la France.
Ouais, je me souviens.
J'ai fait une tournée, j'ai été à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Arles.
Dans le Nord et tout.
Roubaix, j'ai fait des meetings. Parce que aussi, je savais qu'il y a des personnes d'extrême droite, du FN, quand ils allaient me voir en meeting partout, ça leur fout les boules d'avoir mon flyer partout, peut-être, tu vois. Mm-hmm. Ils écrivaient retour en Afrique sur les affiches, ils taguaient devant les lieux qui devaient me recevoir. Mm-hmm. En fait, ça, c'est une victoire parce que j'arrivais quand même sur place. Mm-hmm. Je faisais mes meetings et tout. Mm-hmm. Ça leur foutait les boules. Mm-hmm. Et là, le vrai sujet, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça. Et tu rencontres des gens. Et souvent, dans ces villes-là, tu vois, tu vas voir, il y a un ou deux Renois. Mm-hmm. Ils vont venir à la réunion, ils vont dire, ah, merci d'être venu, tout ça, ça fait plaisir. Ce qu'on subit ici, c'est dur et tout. Mm-hmm. Merci d'être là. Au moins, je suis passé, tu vois. J'ai donné la force. J'ai envoyé un message fédérateur à toutes les personnes qui étaient là, de gauche. Mais tu rencontres toujours un ou deux frères qui sont en difficulté dans, dans un petit village.
Ouais.
Ça fait plaisir de les voir, tu vois. Donc tout ça, j'emmagasine, ça me donne de l'expérience. Et ensuite, je me bonifie, tu vois. Je travaille beaucoup, je lis beaucoup.
Tu lis quoi, par exemple? Tu lis beaucoup de rapports ou tu lis beaucoup de livres?
Beaucoup de rapports.
Ouais,
beaucoup de rapports, c'est ça, toi, sur les différents travaux qu'on va avoir.
Tu travailles tes dossiers, quoi.
Ouais. J'ai aussi quelques livres, tu vois. Moi, je lis beaucoup Franz Fanon. Après, j'avance sur différents, sur différentes thématiques. Mais j'écris aussi mes bouquins, tu vois, qui vont arriver derrière.
Ah, t'as d'autres bouquins?
Bien sûr, j'écris beaucoup, moi.
Ok, j'écris
beaucoup. Et j'ai aussi mes séquences médiatiques que je dois préparer à chaque fois, tu vois. Je parle dans les médias souvent.
Est-ce que tu dors encore, en vrai? Est-ce que t'as le temps de dormir?
Si, je dors.
T'arrives à dormir?
Ça dépend les jours, tu vois.
Ouais.
Les jours où j'ai des polémiques, je dors pas. Tu vois, mon cerveau, il est en train de travailler. Je me dis, tiens, BFM, ces gens qui parlent sur moi et tout, tout le travail. Des fois, j'ai des nuits super courtes, tu vois, 2-3 heures. Mais en général, moi, je dors 6 heures par nuit.
Ok.
Tu vois, mais.
C'est pas énorme. 6 heures.
C'est pas énorme. Mais après, je me dis, c'est comme un combat de boxe. Pour que tu sois debout avant les autres. En fait, quand je fais de la boxe, je me dis, bon, ton adversaire, il s'entraîne à 8 heures du matin. Entraîne-toi à 6 heures. Il s'entraîne à 6 heures du matin, entraîne-toi à 5 heures. Et t'inquiète pas que ça va payer le jour du combat. Tu vois. Et il faut toujours bosser. Moi, j'ai l'impression que depuis mon élection, depuis la campagne, j'ai jamais été tranquille. J'ai que des problèmes, tu vois. À chaque fois, j'ai dû répondre présent. Après la polémique contre l'Afrique, ils m'ont dit, oui, je suis un islamiste. J'ai pas trop parlé dans les médias, mais tu vois, j'ai dû, en circonscription, faire des trucs. Puis, tu vois, aller pour les communautés pour expliquer n'importe quoi ou montrer, tu vois. Depuis le début, j'ai que des trucs, tu vois. On m'avait dit, les comptes de campagne, ils sont alimentés par des terroristes islamistes, par Erdogan, par PKK. Ils ont, tu vois, ils m'ont inventé plein de trucs. Et même si je vais vous montrer, il y a des mecs de Valeurs Actuelles, un média d'extrême droite, qui dit oui, depuis que Bilongo a quitté l'école en 2012, on fait une enquête sur tous les métiers qu'il a.
Ouais, tu vois, ce que tu disais.
C'est obsessionnel. Les mecs, ils sont fixés sur eux. C'est un noir, il est élu, il y a un problème obligé, il y a un truc en guiche sur roche. Mais politiquement, démocratiquement, le mec en face de moi, je l'ai terrassé en ma campagne électorale. On a parlé des vrais sujets, des vrais enjeux. Et les gens dans ma circonscription, ils ont voté à gauche. Maintenant, dans l'imaginaire, c'était DSK avant, dans ma circonscription, Dominique Troscan, c'était Pipponi, c'est des gros barons, et de les faire qu'ils soient délogés par un jeune comme moi, ça fait mal. Ça fait mal. Maintenant, moi, les gens, il faut qu'ils soient derrière moi, je pense, parce que la vision que j'ai, elle est large, pas que pour moi, tu vois, elle va au-delà de ma circonscription. C'est vrai que des fois, je me déplace, je vais partout. Allez-y. C'est ça que j'écris ce bouquin. Pour dire, allez-y, on y va. Si vous avez besoin d'aide, je viendrai même dans vos circonscriptions pour me battre avec vous. Moi, là-bas, je ne veux pas être un symbole. Mais par tout ce que je traverse, je suis un symbole. Par le fait que les médias veulent me tirer dessus, eux-mêmes, ils me mettent en martyr. Ah ouais, bah, vous me mettez en martyr. Après, Dieu existe. Dieu, c'est le père des orphelins. Tu vois, moi, je pense que tout se paye. Donc partout les épisodes que je passe où les gens ils me font des coups de crasse et tout, je dis c'est pas grave, sois patient. Tu vois, moi ce qui s'est passé dans les médias, ça m'a une grosse humiliation. En plus BFM il prend ta photo, il prend une photo où t'as la bouche ouverte comme ça bouclée, bam, il te la met, oui Bilongo, fraude fiscale, oui Bilongo, il a soulagement sa sœur et tu salis les gens, tu vois. Moi les mecs sur un plateau télé, ils sont 4-5, ils disent oui, alors quoi, sa mère elle est morte en 4 années, son père, tu vois. Tu penses vraiment que ça va rester un pays?
Ils font des analyses sur toi.
Tu penses vraiment que Dieu va laisser ça? Non, tu peux pas.
Mais c'est marrant que tu parles de Dieu parce que moi, pour moi, les filles sont athées, quoi, tu vois?
Non, mais chacun a sa croyance. C'est pas ça. En fait, ça, c'est des préjugés.
Ouais, peut-être.
Chacun a sa croyance. Après, c'est sûr qu'en politique, les gens, ils sont beaucoup athées parce que voilà, ils disent. Et ils ont le droit aussi. Liberté de croire et de ne pas croire.
Ouais.
C'est la laïcité, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. De croire et de ne pas croire.
Moi, je, tu vois, les gens, ils veulent croire ou pas croire, tu vois. Mm-hmm. Même qu'ils disent Dieu, mais en fait, ils ne croient pas. Ils disent Dieu pour ça, pour dire, tu vois. Mm-hmm. Même moi, des fois, je dis pas c'est quoi ma religion. Mm-hmm. Pour éviter de dire, non, ils disent oui, en fait, parce que toi, parce que tu es musulman, tu vois. Là, tu me dis oui, vote de Renoir, après, tu me dis vote des musulmans, après, vote des bouddhistes, ou en vote parce que tu n'es pas un africain, en vote parce que, tu vois, c'est après, on avance plus. Oh, c'est pour ça que tu es protestant, en vote parce que tu es chrétien. Même moi, quand j'aime ça, je dis,
flemme.
C'est pas bon. Faut pour moi pour une vision politique au moins c'est bien, tu vois.
Ouais, okay.
Parce qu'en vrai des vrais, les gens après, si on rentre dans la balkanisation, le tribalisme, on se fait la guerre. Au début tu dis parce que ça. Après tu fais ah quelle tribu, ah quel village, tu vois. Ah mais t'es renommé pas de truc. Ah ouais. Ou tout si. Ah mais ton nez il est pas assez gros. Ah mais ton nez il est petit.
Ouais, il y a toujours un truc pour nous diviser en fait. C'est ça que tu
veux
dire.
Bien au début tu dis oui ça, après à la fin on va chercher un autre truc. Ouais mais quelle tribu, ah mais quel pays, ah un truc Congo Brazza, ah moi c'est Kinshasa. Bon, je peux pas pour toi. C'est vrai, tu vois. Parce qu'au jeu de cette différence, on va toujours en trouver.
Ouais, d'accord.
Donc je pense qu'il faut unifier et demain, si on veut aller vers des gros défis, il faut rassembler large. Et moi, je suis dans une vision large, tu vois.
Parce
et
que t'es dans une vision de gros défis. C'est ça, c'est large. Ce que j'ai compris.
Et ensuite, tu me dis que je me bonifie avec le temps.
Ouais.
C'est que je prends des cours aussi, tu vois. Moi, tu liras mon bouquin. Moi, à la base, j'étais bègue.
Ok. Ah, ça s'entend pas.
Je bégayais beaucoup.
D'accord.
Donc, je parlais très peu. Et aujourd'hui, avec ma maman, on avait pu avoir une séance d'orthophonie. C'était super cher. On avait dit qu'à Roisselin, on va rentrer dans le bureau. On va à consultation. On va tout apprendre. Parce que ça coûte super cher. On va tout refaire nous-mêmes à la maison après.
D'accord.
Toi, donc, j'avais seulement une séance d'orthophoniste avec ma mère. On a tout appris. Après, on a tout refait tout seul à la maison. On faisait nous-mêmes. Quand j'étais petit, j'étais bigleux. Moi, j'avais mes lunettes de vue à 18 mois. Tu ne verras jamais un enfant avec des... J'avais des lunettes avec du scotch ici.
Ah oui, si.
Autour et du scotch là et tout, parce que je les ai retirés, etc. Mais j'avais un strabisme incroyable, tu vois. Même des fois, ça se voit, les gens, je vois mes yeux, ils partent là-bas.
Ok.
J'ai tout vécu, tu vois.
Tu as travaillé pour corriger tout ça.
Je travaille tous les jours pour corriger ça. J'ai repris mes séances d'orthophoniste depuis que je suis élu.
Ok.
Je n'ai pas réussi à avoir de séance. J'ai réussi à avoir une séance... Uniquement quand j'étais élu député, tu vois. T'es maladif, tu vois. T'es malade. Le truc, c'est 20 ans après que je peux aller voir un orthophoniste. Parce que je suis plus souvent à Paris.
Ouais.
Il n'y en a pas en banlieue. Donc, ça, les déserts médicaux. Moi, je connais plein de frères qui ont des enfants qui sont autistes, tu vois. Et qui ont besoin de séances d'orthophoniste. Ils n'arrivent pas à voir orthophoniste. Ça, c'est l'inclusion, c'est un truc important.
C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet. Ouais. Et ça, même, il faut faire une petite capsule, il faut en parler. L'inclusion, c'est super important. Il y a beaucoup de communautés qui ont des enfants. Qui sont soit hyperactifs, autistes, tu vois. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour les foyers, pour la femme, pour l'homme, tout de la maison, et même pour les frères et sœurs. Donc, il faut vraiment qu'on ait un travail là-dessus, sur le sensoriel, qu'est-ce qu'on peut faire, même au terme d'association, comment on peut aider nos amis. Et comme je te dis, l'orthophonie, c'est un point important qui n'est pas présent. Moi, j'ai pu reprendre ces séances, ce qui fait que je suis un peu mieux dans mes prises de parole. Ensuite, je fais aussi des médias training, tu vois, avec mon groupe politique. Et puis après, c'est en faisant des médias, en faisant des...
C'est la pratique, quoi.
La pratique qui fait, tu vois. Je vais dans les médias, je fais des réunions publiques, etc. Et tout. Et voilà.
Non, on sent que... En fait, ce que moi, je ressens, c'est que maintenant, t'es plus libre. En fait, t'es plus souple, plus fluide dans ta manière de t'exprimer.
J'ai même pas 30%.
Ben, j'espère. Nous, on attend de voir le max. Mais je pense que c'est parce que, justement, vu que tu... maîtrise mieux, t'as plus l'habitude.
Bah dommage, là j'étais dans une bonne séquence là. Avec ce qui s'est passé, ça va un peu me ralentir.
Ouais.
Mais j'allais faire des bons petits trucs. Là malheureusement, il faut que je me dépaille tout de ça.
Ouais.
Avant d'aller sur l'hémicycle pour des différents sujets, tu vois.
D'accord. Et dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est si demain l'Afrique était le Wakanda, tu vois, donc une Afrique idéale, toi qui es député français et qui te sens noir français, quel rôle tu jouerais dans une Afrique idéale ?
J'ai un truc important que j'aimerais dire, c'est que les gens ils pensent que l'Afrique, c'est une chaise gardée. Plein de gens ils disent, oui, moi, je veux rentrer et tout, je veux faire ça là-bas et tout. Là-bas, il y a une jeunesse qui existe. Hein, et qui est déterminée, qui est super intelligente. Moi, quand je discute avec des Africains, ou quand je vais en Afrique directement sur place, des fois, je rencontre des Africains, ils sont en France, hein, qui sont là pour des vacances, pour des séjours, ils sont super intelligents. Moi, j'apprends beaucoup. Tu vois, quand je discute avec des jeunes Africains ou quand je discute avec des élus de différents pays, du Sénégal, du Maroc, d'Algérie, je m'entends très bien avec les ambassadeurs. Parce que souvent, c'est des personnes expérimentées, tu vois. Donc j'apprends beaucoup, moi, des Africains, tu vois.
Ouais.
Et j'ai pas la prétention, moi, d'être meilleur qu'eux, ou, tu vois.
D'être le sauveur. T'as pas le complexe du sauveur.
Non. Mm. J'ai plus à apprendre d'eux qu'eux vont apprendre de moi, tu vois.
Okay.
Parce que eux, déjà, dans leur vie de tous les jours, ils vivent dans des complexités que moi, je sais pas si tu peux tenir 2 semaines ou 1 mois ou 3 mois.
C'est vrai.
Mm-mm. Tu vois. Celui qui est en Afrique avec des moyens financiers, il vit bien.
Mm-hmm.
Celui qui est en Afrique et qui a pas d'argent, en difficulté, il vit très mal. Et c'est super compliqué. Tu
je
vois.
Comprends. Okay.
Donc, moi, si demain l'Afrique est Wakanda, tant mieux, ce sera mérité.
Mm-hmm.
Et si la France n'a plus rien, bah, je resterai en France, il faut assumer, c'est tout.
Mm.
Là, on va essayer de collaborer. Peut-être qu'il y aura des investisseurs africains qui vont investir en France pour nous aider. Il faut aussi qu'il faut là, il faut la vérité aussi.
T'as raison.
J'espère qu'il y aura des Africains qui vont venir, bon, on va investir en France, on va aider des frères qui sont là-bas.
Mm.
Parce que certains, mes parents ont fait ça, mon père envoyait beaucoup d'argent au bled pour construire sa maison, etc.
Mm.
J'espère qu'il y aura des Africains qui vont dire, bon, on va venir un peu aider en Europe pour voir ce qu'il y a à faire et tout.
Mm-hmm.
S'il y a des riches en Afrique. Et par contre, en plus, ça existe. Hein.
Mm-hmm.
Celui qui a racheté le club d'Arsenal.
Ouais, c'est
comment il s'appelle?
Oui, Aliko Dangote.
Voilà.
Je sais qu'il veut investir dans Arsenal.
Il y a plein de trucs, toi, qui
petit
qui...
à petit, c'est en train de bouger, ouais.
Il y a beaucoup de milliardaires au Nigeria plutôt, et qui veulent ensuite venir en Europe sur différents sujets.
Mm-hmm.
Il faut pas croire que la France, l'Europe, c'est l'alpha et l'oméga. Hein.
Mm-hmm.
Demain, la roue peut tourner et ça peut être l'Afrique qui est de l'Afrique. C'est déjà le cas en plus en termes de matières premières.
Ouais. Totalement.
Et la transition écologique, vous imaginez qu'en fait, il y a des mines où les matières premières pour cette transition écologique, elles sont en Afrique, tout,
mm-hmm.
dans des mines.
Mm-hmm.
Mais imaginez juste que la transformation, elle se fasse sur place, avec des usines, ça va créer de l'emploi déjà.
Mm-hmm.
En plus, quand on dit en France, par exemple, il y a 1,7 actif pour 3 retraités, en France...
Ouais. En Afrique, c'est encore autre chose.
En France, le pays est vieillissant. Mmh. En Allemagne, je t'en parle même pas.
Mmh.
Donc, en toute l'Europe, l'Europe est vieillissante.
Mmh.
Et l'Afrique a une jeunesse qui monte.
Mmh.
La natalité est bonne, etc. Tout va bien. Demain, quand il y a le coronavirus, les Africains ne meurent pas. En France, les gens ils meurent. Enfin, en Europe, les gens ils meurent. Quand il y a le coronavirus, en Afrique, ils ne meurent pas. Tu vois qu'il y a un croisement.
Mmh.
On n'est pas arrivé encore à ce moment-là. Là,
ouais.
Tu vois, le point de cassure.
Ouais.
Mais il y a ça, tu vois.
D'accord.
Où les gens ils survivent à tout, Ebola, grippe aviaire, nous la vache folle ça fait des morts, tu vois. Donc tu vois qu'il y a quand même il y a une fraction, on n'est pas arrivé à ce moment-là où ça percute,
mais potentiellement.
Mais on va y arriver, parce que même en termes de technologie, moi autant d'entrepreneurs qui nous regardent, qui sont dans les métiers de la tech, les applications, tout ce que tu veux, demain en nombre d'utilisateurs, tu vas aller vers l'Afrique parce qu'il y a plus d'utilisateurs, il y a plus de jeunes.
Bien sûr, totalement.
Et dès que tous les pays africains seront électrifiés ou dès que les pays africains auront la 5G, c'était une force. Tu vois ?
Totalement.
Et beaucoup de gens l'ont compris. Hein. Et les pays l'ont compris. Et les groupes du 440 l'ont compris. Quand tu vois que Xavier Niel est venu au Congo dans la délégation avec Macron, etc., pour faire à l'école 42, l'école 44, je ne sais plus.
C'est 42, je crois.
42 à Kinshasa, c'est pas pour rien, tu vois. Le Congo, encore, j'en parle, tu peux être la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire, c'est un hub incroyable.
C'est devenu une terre d'asile.
Tu vois, quand tu pleut à Paris, il y avait déjà mouillé.
Ouais, c'est ce qu'on dit toujours.
Tu vois, mais le Congo, c'est 120 millions d'habitants d'ici à 2030.
Mm-hmm.
Un Congolais sur deux parle français.
Mm.
Limite, il y aura plus de Congolais qui parlent français qu'en France.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que tu fais avec tout ça?
Ah, c'est vrai.
Un mec qui a un business, la capitale de Kinshasa, il y a 18 000 habitants, je crois 14 millions d'habitants. 14 millions d'habitants à Kinshasa. Demain, tu as un business qui vaut juste $1. Si tu as un flux dans un quartier, il y a plein de gens qui passent comme ça. Juste $1. Tu fais peut-être $4,000 à la journée. Hein.
Ouais, totalement.
Si tu vois un truc à $1, par exemple. Tu vois. Mais malheureusement.
Non, le potentiel est énorme, c'est ça que tu dis.
En Afrique, il y a des pays qui n'ont pas de souveraineté alimentaire.
Mmh.
Parce que quand on parle $1, c'est un truc alimentaire à $1. Tu vois.
Oui.
Mais il y a beaucoup de produits importés. Donc les prix sont chers et ils n'en arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il faut que les terrains en jachère, les gens puissent avoir des terrains agricoles. Pour avoir un terrain agricole, il ne faut pas qu'il soit inondé. Donc des règlements climatiques.
On y revient.
Tout est lié, tu vois.
Ah ouais, on y revient.
Tout est lié. Question climatique, économique, tu vois, et l'indépendance et la souveraineté alimentaire. C'est ça qui fait qu'un pays va bien, tu vois.
On est d'accord. Merci, Carlos, pour ton temps. Merci pour.
Merci à toi.
Avec un grand
merci
plaisir. C'est normal. À Swan qui nous a aidés sur cet épisode. Moi, je veux dire quand même que je considère que parce que t'es noir et aussi parce que tu vas dans une bonne direction selon nous, en tout cas, nous, on doit te soutenir. Ça, c'est ma vision et je la partage à tous nos auditeurs. Tout à l'heure, t'as dit quelque chose de très important. T'as dit, on regarde sur 10 points. Si t'en valides 8, on va pas regarder les deux autres. Tu vois. Et pour moi, c'est cette vision qu'on doit avoir pour les frères de la communauté, parce que on a besoin de rôle modèle. Nous, on a souffert quand on était petit, on n'avait pas d'exemple. C'est quand Taubira est arrivée, c'est une des premières, tu vois. Et aujourd'hui, qu'il y en a, bah, nous, on doit mettre toute l'énergie qu'on a à disposition pour soutenir. Après, je sais pas concrètement, faudrait qu'on voit, on va voir en off ce que ça veut dire soutenir, tu vois. Mais relayer dans les réseaux sociaux quand t'as un truc. C'est comme ça que font les autres.
Bien sûr, il faut relayer, commenter, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire?
Moi, des fois, dans les commentaires, il y a beaucoup de fachos.
Voilà.
Un truc sur l'Haïti, il y a une âme qui est venue, elle a écrit un truc négationniste. Non, tout son ouverture déjà. S'il aurait été en Guyane, ça aurait été pire pour lui. Donc, heureusement qu'il est venu en France, il était bien loti en prison.
Tu vois?
Tu vois, j'ai dit des trucs, tu vois. Tu vois. Moi, je ne peux pas répondre.
Donc, au lieu d'être
des
là.
Frères, des fois, de répondre, de, tu vois.
Ouais, c'est ça, en fait, tu vois.
Tu sais, les frères qui aiment décider leur science dans les podcasts, ils mettent leur science
dans les commentaires.
Quand j'ai un gros soutien, moi, de la communauté africaine qui est sur place. Ah. Et ça aussi, c'est.
Sur le continent?
Ouais, c'est ça qui est dissonant. C'est que souvent, en fait, je suis critiqué par des.
La diaspora. Ouais.
Mais les Africains qui sont sur place, qui sont super intelligents et meilleurs que les gens de la diaspora, ils comprennent, en fait. Okay. Ah ouais, franchement, c'est bien ce que tu fais et tout.
Bah, tu vois. Voilà. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, moi j'ai
un gros soutien. Moi, quand je vais au Congo, je fais des meetings sur place, tu vois. C'est magnifique, tu vois.
Ouais.
Quand je vais au Sénégal, je fais des conférences et tout. Tu vois,
c'est top.
C'est gratifiant, tu vois. En Algérie, je suis bien suivi.
Mais toi, t'as beaucoup bougé quand même. Vraiment. À chaque fois, je vois, je dis, hey. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Quand est-ce que tu dors?
Même là, je suis en pause là, à cause de mes problèmes. Sinon, je serais dans un autre pays.
Ah ouais.
Non, c'est important parce que l'influence aussi, elle vient de l'extérieur. À l'intérieur, tu peux être bon à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ouais. Parce qu'on prépare quelque chose de gros, il faut être prêt. C'est comme ça.
Ok, d'accord. C'est noté en tout cas. Mais merci en tout cas pour tout. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité, ta disponibilité toujours. Tu réponds à chaque fois que j'envoie un message, tu réponds toujours. Donc, et on te souhaite de la force pour
merci
que tu
beaucoup.
Réussisses pour la suite, quoi, tu vois.
Et à tous. Merci pour votre média aussi. Hein.
Merci beaucoup. Merci. On est ensemble. Et à tous, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Et d'ici là, revoyez vos ambitions de noir français à la hausse.
Et le livre est disponible à Fnac, Amazon. Tu as les bons libraires.
Totalement. On va se le procurer, nous, en tout cas. Ciao tout le monde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement, en tout cas, des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.